bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout en meilleure santé.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Voilà, ça y est, on y est. Donc, avec Kylian Hagen. Salut Kylian, bienvenue sur le podcast.
Salut à toi, je te remercie pour l'invitation.
Ah ben non, mais c'est un plaisir, franchement, c'est cool. Ça fait un moment qu'on me demande quand c'est que t'as Kylian sur le podcast, Et voilà,
et voilà.
Il est sur le podcast, donc on va partir sur, je sais pas combien de temps, comme d'habitude, là on va partir sur une discussion. Le podcast, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? On va parler de musculation, c'est vrai que c'est un truc que je parle... C'est un truc qui revient beaucoup sur le podcast, la musculation. Je disais juste avant là, que tu étais passé sur le Rendez-vous Musclé, qui est un autre podcast qui est plutôt sur la force.
Ouais,
c'est là où je t'ai entendu.
C'est ça, tout à fait.
Enfin, je t'ai entendu, je te connais depuis longtemps. Kylian, je te connais depuis... peut-être grâce à Rudy Koya, je pense. Parce que comme
ok, mais c'est possible. C'est un petit peu ça, on va dire, qui a fait le tout début que j'ai été sur les réseaux sociaux, hein, et que mon entrée dans la team super physique. Puis c'est seulement par la suite que j'ai lancé ma chaîne YouTube, quoi.
Ouais, bon, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui te découvrent aujourd'hui, ceux qui ne sont pas du tout dans le milieu de la muscu et du fit game sur YouTube. Je te laisse dire qui tu es et pourquoi tu es quelqu'un d'important.
Oh, bah, important, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, je m'appelle Kylian Hagen. Au niveau, moi, de ma formation, bah, je suis diététicien et coach sportif. Ça fait déjà quelques années que je suis sur les réseaux sociaux. À chaque fois, je dois dire combien de temps ça fait, mais je ne sais même plus, ça fait... Bon, je dirais 4-5 ans là maintenant. J'ai une chaîne YouTube, c'est surtout grâce à ça que je suis connu sur les réseaux. Donc c'est une chaîne où je partage pas mal d'informations sur la musculation évidemment. Et mon but c'est vraiment de proposer un contenu qui soit qui apporte des informations facilement utilisables et facilement aussi compréhensibles. Le but du jeu c'est vraiment que les gens ils arrivent sur la vidéo et ils ont un problème au début, donc ils cherchent une solution et que moi j'apporte donc non seulement l'explication de pourquoi il y a le problème et surtout aussi la solution. Donc c'est vraiment ça mon but, apporter des vidéos simples et précises pour que les gens en retirent quelque chose de réel. À côté de ça, bah évidemment, bah je fais du coaching de par mon travail de diététicien et de coach sportif, surtout du coaching à distance. Et bah de par la chaîne YouTube, bah, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent de l'étranger. Mmh. À côté de ça, bon bah je fais des coachings aussi en CrossFit qui sont plus des coachings du coup face to face, quoi, face à des groupes. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Sinon, au niveau sportif, vraiment, donc en dehors du travail et tout ça, je fais de la musculation depuis maintenant, ça fait 11 ans. Je suis passé par la force athlétique, donc des compétitions de powerlifting, et aussi par le bodybuilding. Donc à chaque fois, j'ai fait des compétitions. Pour le powerlifting, j'ai eu des records de Belgique, vu que je suis belge. Et pour le bodybuilding, bah, j'ai fait des championnats d'Europe, championnats du monde. Et voilà, j'ai un petit peu fait le tour pour découvrir tout ce qu'il y avait à voir à ce niveau-là.
T'as fait
et
quoi
sinon,
comme
bah, depuis... Ouais, comme palmarès. Alors, en bodybuilding, j'ai fait vice-champion d'Europe. Donc, c'était à chaque fois des compétitions naturelles. Donc, avec contrôle, etc. J'ai fait vice-champion d'Europe et j'ai fait top 6 mondial. Donc, voilà. Sinon, avant, bon, il y avait des compétitions belges de qualification. Où là, bah, j'ai fait premier. Sinon, j'aurais pas été qualifié. Donc voilà.
C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il y en a qui vont déjà commencer à sauter au plafond. On entend le mot naturel, on entend le mot.
C'est ça.
Il y avait quelques années. Tu vois, c'est pour dire que ça fait longtemps que je regarde un peu ce qui se passe dans le milieu. C'était Docteur Tien qui avait fait une vidéo.
Oui, c'est vrai.
Et qui avait presque failli à l'époque me mettre le doute parce qu'elle était très bien.
Ah ouais.
Et,
c'est ok. Enfin,
bah, c'est-à-dire que t'as un gros physique. Alors attends,
bah, là,
je parle de suite, tu t'accuses de rien ou quoi que ce soit. Moi, je pense que tu fais partie de ces personnes-là qui ont un super niveau, qui ont une très bonne génétique. Je pense aussi de base qui t'as l'air d'avoir les os larges, tu vois. T'as l'air d'avoir une bonne
Ouais, on va dire que pour ça, je suis dans la moyenne. Pas dire que je suis au-dessus, mais je suis dans la moyenne. Superphysique, et justement, je sais plus si c'était avec Hugo ou quoi qu'on en avait parlé, mais sur Superphysique, ils avaient un tableau qui reprenait sur base des mensurations, on va dire, osseuses, donc tour de poignet, tour de cheville et d'autres choses comme ça, les limites, entre guillemets, naturelles que tu pouvais atteindre, tu vois. Et en fonction de ça, bon, ça veut aussi voir si on était dans la moyenne au niveau du tour de poignet, etc. Et j'étais, ouais, j'étais au niveau de la moyenne. Et du coup, ouais, c'était avec Avener qu'on avait discuté de ça. Donc voilà.
Sur sa chaîne, tu veux dire?
On en avait discuté quand j'étais allé chez lui. On avait filmé ça. Maintenant, je sais pas si c'était passé dans la vidéo. Je saurais pas dire.
Ok. Avener, donc, qui est à la base un youtubeur, quoi, il faisait des courts-métrages et puis ensuite il a fait sa seconde chaîne. Pour ceux qui connaissent
ça, il avait même aussi ses caméras cachées au tout début.
Exact. Et puis tu l'as coaché récemment, on y reviendra un petit peu après.
C'est
parce que ça a été fait dans le plus grand des silences et des mystères.
Dans la discrétion.
Ça a été révélé à la fin, même s'il y avait eu quelques petits indices qui avaient été semés sur le passage. Et puis, alors d'ailleurs pour l'anecdote, parce que je regarde les vidéos de temps en temps là d'Avener sur Road to Saiyan, donc j'ai vu un peu toute son évolution sur le physique Road to Nati, tu vois. Enfin, non, pas Road to Nati.
Road to meilleur physique Nati.
Ouais, voilà, pardon. Ouais. Road to meilleur physique. D'ailleurs, ça a été, il a eu de très bons résultats. Et puis, il laissait quelques indices sur la personne qui s'occupait un petit peu de son programme. Et quand j'ai entendu les cycles de progression, je t'avoue que je suis tombé dans le panneau et je me suis dit, c'est pas possible, il se fait coacher par Rudy. Et puis, c'est après que j'ai eu le truc, je me suis dit, mais non, c'est vrai, ça doit être Kylian. Et puis voilà, puis c'était Kylian, c'est ça.
Et ouais. Bah, tous les élèves que j'avais en coaching à ce moment-là, ils avaient directement trouvé le truc. Parce que, automatiquement, bah, par exemple, ou même les gens qui me suivaient sur YouTube, pour certains, ils avaient le même banc que moi. Le banc, pour faire son développé couché, décliné, tout ça. Ils faisaient du développé décliné. Je suis un des seuls qui en fait. Et puis bon, il y avait aussi quelques stories ou quoi qu'il avait mis où on voyait son programme d'entraînement, donc la mise en page qu'il y avait. Et automatiquement, bah, tous mes élèves ont suivi. Ils ont dit, ah bah ouais, c'est le même que nous. Enfin, c'est le même que nous. C'est la même mise en page. Donc, automatiquement, c'est Kylian, quoi.
Ouais, non, mais t'as fait un joli travail. Ça a duré combien de temps? Tu sais quoi? J'ai dit, on en parlera plus tard, mais on peut en parler maintenant parce que tant qu'on
est là.
Ça a
duré combien de temps? Si je ne me trompe pas, on avait commencé durant le mois de septembre ou août 2020, du coup. Et on a terminé un petit peu avant le début des vacances d'été. De cette année, quoi. Donc, ouais, quasi un an, c'est ça.
Ok. Et alors, bilan, il a pris quoi? Parce que c'était pas un débutant, ça fait plusieurs années,
non,
il était un peu en on-off, donc tu le prends pas à un moment hyper facile, dans le sens où, parce que le débutant absolu, bon, il va prendre, quoi. Je veux dire, c'est un peu les faciles, alors que lui, il avait déjà un passif, il fallait plutôt le discipliner pour qu'il respecte
Mais c'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, il avait déjà d'autres coachs qui étaient aussi connus, on va dire, avant. Lorenzo Becker, il a eu Jean-Hanche aussi. Seule chose, c'est que il avait pas encore réussi à trouver, on va dire, sa discipline, comme tu dis, et ses habitudes. Il avait pas réussi à intégrer réellement la musculation à son rythme de vie, quoi. Et du coup, c'était tout ça le challenge, quoi. Il avait tendance, lui, à avoir vraiment des passes où il était à fond dans ses entraînements, et à côté de ça, des passes où hop, il lâchait, mais tout d'un coup, quoi.
C'était ce qu'il était reproché souvent, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Et on s'est rendu compte au fil du temps que, de par la façon, de par les méthodes qu'on a utilisées pour le coaching, que tout s'est bien passé, et il a justement réussi à vraiment inclure ça dans son rythme de vie. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment valorisant, au-delà de sa progression physique, quoi. Que il ait réussi vraiment à inclure la musculation comme moi, on va dire, je lui ai appris, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, quoi.
Et voilà, pour moi, c'est quoi, concrètement, c'était quoi les points clés, la différence, enfin ce qui a fait la différence, justement, c'est psychologique, c'est routinier.
Je sais pas, à mon avis, ça dépend de beaucoup de choses, mais je crois que ce qui a le plus joué, c'est dans la façon de faire. Quand je dis la façon de faire, c'est de par les cycles, d'avoir une logique derrière ce qu'il faisait. C'était pas du style, tiens, voilà ton programme, t'as des exercices aujourd'hui, tu sais pas pourquoi, t'as des charges, tu mets celles que tu veux, tu sais pas pourquoi. Là, il y avait vraiment quelque chose de compréhensible. Du coup, à travers le coaching, lui, on va dire, il se doutait un petit peu de ce qui allait venir. Voilà, j'ai réussi à passer telle perf cette semaine. La semaine prochaine, je vois que je dois passer telle perf. Il y avait toujours un petit peu cette notion-là de progression et de comprendre sa progression. Pas, je m'entraîne, j'ai un peu progressé, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Là, il y avait vraiment quelque chose de chiffrable et de mesurable derrière, quoi. Et je crois que c'est à travers tout ça que ben voilà, il a vraiment réussi à se dire ben, ça c'est la muscu. Je pense qu'il, comment expliquer ça, il a fait quelque chose qu'il a compris et qu'il a validé par lui-même. C'est un peu ça l'idée, quoi. Il s'est rendu compte par lui-même que c'est quelque chose qui fonctionnait. Voilà.
Ok, donc c'est ça, le truc. structure, pas mal, et puis compréhension.
Voilà, mais le mot structure, il est très beau. Et pour la petite anecdote, ça c'est amusant, la façon dont on s'est un petit peu connu pour le coaching, hein, c'est
ce
qu'il avait... Ah ben voilà, parfait. Il avait lancé du coup sa série de meilleurs physiques natifs, et il avait mis quelques physiques de personnes, voilà, lui, pour moi, il a des meilleurs physiques natifs, ceci, cela, et j'ai vu que j'étais pas dedans. Donc pour un peu l'ennuyer, parce que voilà, enfin... pas plus de raison que je sois dedans qu'un autre, mais pour un peu l'ennuyer, je lui ai dit, bah, écoute, pour moi, le meilleur physique nati, il est plus haut que ces mecs-là, regarde, il y a moyen de faire mieux, tu vois, pour un peu rigoler. Mm. Et puis, il m'avait dit, oui, bah, écoute, c'est vrai que j'aime bien ton physique, ceci, cela, mais, honnêtement, j'étais pas certain que tu sois nati. Donc, moi, à ce niveau-là, bah, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois, c'est un argument qui peut se valoir, il n'a aucune raison de me croire, tu vois. Mm-hmm. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, il n'y a pas de souci, t'es pas obligé de me croire. Mais si tu veux, je te coach, et tu verras d'ici quelques temps, si tu fais bien tout ce que je te dis, que c'est possible ce que moi j'ai, parce que tout simplement, tu vas le vivre aussi, tu vois. Tu vas passer par là et tu vas le comprendre. Mmh. Et bah, au final, c'est tout à fait ce qui s'est passé, et du coup, bah, je veux dire, mon challenge personnel a aussi été un petit peu réussi par ça, quoi, tu vois.
Mmh, ok, bah c'est marrant. Alors il te pensait pas nati, enfin en tout cas il émettait des doutes.
Il n'était pas sûr, quoi, c'est ça, voilà, il n'était pas sûr.
Et là où moi aussi j'aurais pu émettre des doutes il y a quelques années, justement quand j'avais vu quand je m'étais fait, enfin c'est moi je pensais au départ je pensais que t'étais naturel, enfin
c'est ça.
Bon, je me suis dit bon je pense pas qu'il vienne soit dopé. Et ensuite quand j'ai vu la vidéo de Tien, tu sais ça m'a, je me suis, c'est, tu te fais facilement influencer, surtout c'était il y a il y a 10 ans, enfin peut-être un peu moins de 10 ans.
Ouais, je dois faire à mon avis genre 6-7 ans, quoi. Bah, ouais, peut-être même ou 5 ans, on va dire. On
vérifie. Je m'étais dit comme ça, donc je.
Mais le truc, c'est que la vidéo de Dr TN, donc je l'avais regardée évidemment, mais elle m'a pas marqué du tout. Non, c'est pas lui que j'ai répondu, c'était comment il s'appelle.
Ah ouais.
Le cancer du feed game, un truc comme ça. C'était plus vis-à-vis de lui que j'ai refait un truc. Mais justement, la vidéo de Dr TN. Elle m'avait pas marqué et je ne me souviens plus du tout de ses arguments parce que sur le moment où je l'ai regardé, je me suis dit c'est nul en fait. Enfin, même moi, je me suis dit, je sais pas, moi je ne me disais pas. Tu vois, quand t'es face à une vidéo comme ça qui t'accuse, tu te dis c'est vrai que de cette vision-là, les gens pourraient croire, etc. Et du coup, ça peut pas te mettre mal, mais te dire ah ben merde, j'espère que les gens vont pas y croire. Que lui, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit bah je sais pas, c'est tellement nul. J'ai limite été déçu des arguments. Je pensais que il aurait pu trouver des trucs pour aller plus loin dans la démarche, tu vois. Que du coup, bah non, ça m'a pas du tout interpellé sa vidéo. Mais j'ai bien aimé, puis je crois que le Pokémon qu'il m'avait mis, c'était Dracaufeu, tu vois. Et je me suis dit, bah, j'aime bien ce Pokémon-là, donc j'étais content.
Ah oui, sinon, c'est vrai que... C'était Pokémon pour pas citer...
Ouais, c'est ça, tout à fait. Et sinon, un qui m'avait fait chier, lui, vraiment, c'était le cancer du feed game, un truc comme ça. Et lui,
il n'existe plus.
C'est possible que non, je pourrais plus le dire. C'est possible. Lui, justement, était beaucoup plus agressif dans sa façon d'être, tu vois. Dr. Ten, autant lui, il était, bah, écoute, je pense avoir découvert quelque chose, que l'autre, il t'accusait, il te disait, voilà, ceci, cela, il était méchant, quoi, tu vois. Et, ouais, non, ce gars-là, franchement, je l'aurais dit, enfin, je crois que je l'aurais pété sa gueule, quoi.
Mais, s'il écoute, voilà prévenu. Bah,
je pense qu'il va vite partir, du coup. Mais non, c'est ça. Enfin, puis bon, ça fait partie du jeu aussi, quoi. Tu vois, c'est des choses amusantes. Puis c'est normal qu'une personne qui ne passe pas par ce que moi, j'ai fait pour arriver à ces résultats-là ne le comprenne pas, tu vois. C'est comme, ben, je prends souvent cet exemple-là. Ben, tu regardes la gymnastique, par exemple. Ben, ici, on la voyait aux Jeux Olympiques. Tu vois ce que les mecs font, style barre parallèle, barre fixe ou quoi. C'est impressionnant, tu vois. Tu te dis, bah, ça a l'air compliqué. Mais même en te disant que ça a l'air compliqué, tu ne te rends pas compte à quel point il y a un vrai travail derrière. Il faut vraiment passer par ce travail-là que pour comprendre bah, que c'est possible et comprendre toutes les démarches qu'il a fallu faire pour y arriver, quoi.
Et justement, parce que quand tu parles de structure, que c'est ce que t'as apporté, la compréhension de la structure et puis la mise en place de celle-ci à Avner et qui a fait qu'il a eu ses résultats, on va dire, à long terme. Tout ça, tu l'as découvert. Enfin, je pense surtout structure, cycle de progression, quelque chose qui va être cadré Là encore, hein, y a débat. Hein. Bon, on va revenir sur ce débat entre est-ce qu'il faut cycler, est-ce qu'il faut pas cycler. Il y en a qui parlent pas de cycle. Je pense à Michael Gundil, par exemple, quand je lui posais la question sur le podcast. Ouais. C'est assez marrant, cycler. Pourquoi,
tu l'as eu en podcast?
Ouais.
Ah, bah, génial, il faudrait que j'écoute.
Ah, bah, il faudrait que j'écoute ça. Hein, c'est 3 heures. Je suis content d'avoir réussi à garder Gundil pendant 3 heures. Et il y a des pépites. Il termine en enfer à la fin.
J'aurais dû d'écouter ça, franchement.
Voilà, il faudrait que tu écoutes ça, c'est super. Enfin, c'est du grand Gundil. Et donc, oui, forcément, moi, je lui ai posé des questions sur les cycles, qu'est-ce qu'il en pensait. Alors lui, il est pas du tout cycle, lui, il s'entraîne beaucoup de techniques. Alors là où c'est ça qui est marrant, hein, c'est qu'on a vraiment plusieurs sons de cloche en fonction des différentes perceptions et différents acteurs du milieu. C'est que lui, quand je lui demande, mais les techniques d'intensification, finalement, c'est surtout quand on utilise du dopage. Il dit ah ben non, c'est surtout quand on est dopé. Surtout quand on est naturel qu'il faut utiliser les techniques d'intensification. Là où d'autres, pour pas les citer, sans les citer, disent que c'est l'inverse, que les techniques d'intensification sont pas utiles et ne permettent pas d'avoir quelque chose de reproduit.
C'est ça, de quantifiable facilement et pour aller plus loin, c'est ça. Ouais.
Exact. Alors toi, ta vision de la progression et de la structure, est-ce qu'elle te vient de Superphysique? Elle te vient de toi, mais comment elle est apparue? Comment tu t'es organisé pour créer ta propre méthode?
Bah, au final, du coup, on pourrait reprendre un peu les choses à leur début. Quand j'ai commencé la musculation, dès le début, je me suis dit, il faut que je me renseigne, il faut que je comprenne un petit peu ce qu'il faut faire pour progresser, quoi. Et du coup, j'ai un peu fait le tour des sites internet qui existaient sur le sujet. Le premier site sur lequel je suis tombé et sur lequel j'ai appris des choses, c'était le site Musculaction. Je sais pas s'il existe toujours, mais il y avait articles et tout. Mmh. Il était sympa, il était bien. Enfin, il y avait pas mal de petits articles, on apprenait des choses, et c'est un peu ça qui était ma première base, entre guillemets. Puis rapidement après, sur le forum de ce site-là, vu que j'étais inscrit sur le forum, je discutais un petit peu, c'était fort à la mode, les forums, à ce moment-là, y a eu une pub pour le site Superphysique qui allait ouvrir dans les mois ou dans les semaines qui suivent, quoi. Du coup, je me suis dit, j'ai un peu fait le tour des sites de musculation qui existaient, à nouveau, je vais aller voir ça quand il sortira. Et le jour de la sortie, j'y étais, il y avait déjà quelques articles, et j'ai bien apprécié, ça fait partie des sources. Puis petit à petit, je continue à faire mon petit tour. Il y avait une vidéo de ceci, il y avait un article de cela. Il y avait très peu de vidéos YouTube sur la musculation à ce moment-là, c'était différent. Et je me faisais mes petites idées. Et c'est à force de tester, de pratiquer un petit peu les différents conseils que je voyais, que je me suis dirigé de plus en plus vers Superphysique, parce que c'est ce qui collait le plus à quelque chose que j'appréciais faire. Et c'est ce qui, en termes de résultats, sur le moyen et court terme, on va dire, vu que là on n'était pas encore sur le long terme, me procurait le plus de bénéfices, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment à travers l'apprentissage théorique et à travers la pratique que petit à petit j'ai établi ma méthode, quoi. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est la seule bonne façon, même si c'est pas bien de dire il y a que ça qui fonctionne, hein, c'est la seule bonne façon d'établir une méthode, c'est de l'apprendre de façon théorique et puis surtout de la mettre en pratique, quoi. Parce que juste faire de la pratique de quelque chose si on n'a pas la théorie à côté, ou juste se baser sur la théorie, telle étude a dit ça, donc c'est ça qui est vrai, c'est pas suffisant, quoi. Il faut vraiment arriver à unir les deux pour avoir quelque chose de solide, quoi.
Et alors pour toi, c'est quoi la théorie qui compte? Sur l'entraînement, sur la progression. On reviendra après sur la pratique, peut-être, sans trop en dire, on va pas développer pendant 30 ans, mais sur le côté théorie, c'est quoi la théorie de la progression? Comment on progresse? Comment on améliore ses performances?
En gros, pour toi, s'il fallait que je dise le conseil de base pour progresser en muscu, alors, s'il fallait ressortir...
Par exemple, pour comprendre comment ça fonctionne pour progresser. Okay. Simplement, pour quelqu'un qui fait un peu n'importe, enfin pas n'importe quoi, mais qui va un peu à la salle, il s'entraîne et tout, et puis finalement les résultats sont un peu légers, il arrive pas, et puis il dit finalement je comprends pas, je dois faire quoi, c'est comment je comprends là.
Pour moi, s'il y avait qu'un conseil à donner, et bien évidemment là on simplifie fortement les choses, tu vois, mais s'il y avait qu'un conseil à donner, c'est progresser sur ses charges. C'est le truc le plus important, tout simplement parce que, et ça je leur dis à chaque fois que j'ai des podcasts comme ça ou quoi, le corps, lui, il s'en fout de prendre du muscle. Ça ne lui apporte strictement rien si c'est juste prendre du muscle. Le côté esthétique, il ne le voit pas, il n'y a rien de particulier. Ce qui va faire qu'il va progresser, c'est parce qu'on va le pousser à s'adapter à quelque chose. Donc, les entraînements, ça va être une contrainte. Si la contrainte est trop importante pour le corps, lui, son but, c'est de survivre. Du coup, il va s'adapter de façon à ce que si la contrainte se répète, il va s'y confronter de façon, on va dire, plus facile. Donc en gros, le corps est soumis face à une contrainte, l'entraînement, du coup il s'adapte. Si la contrainte augmente toujours, l'adaptation, elle, va aussi devoir augmenter toujours. Donc la prise de force, la prise de muscle va augmenter. C'est pour ça que bah, l'idée est d'augmenter ses charges régulièrement. Évidemment, il y a tout plein de processus là derrière. C'est pas juste rajouter 1, 2, 3, 4 kilos chaque semaine. Mais le fait d'augmenter régulièrement ses charges, c'est ça qui va permettre de progresser en masse musculaire et en force. Pour moi, si un conseil à retenir, c'est celui-là. Et un truc qui illustre bien ça, qui montre à quel point on pourrait presque le suivre de façon idiote et bête, c'est pendant toute une période, je me suis entraîné dans une salle de powerlifting, une salle où il y avait peu de machines, on va dire, différentes, où du coup, bah, la majorité des gens, bah, ils faisaient du développé couché, en tout cas, ils travaillaient avec charge libre. Et dans cette salle-là, c'était pas nécessairement des gens qui étaient très, comment on va dire, pas très intellectuels, on va dire, c'était des gens, ben voilà, ils axent fort leur façon d'être sur ben, des choses plus physiques, etc. Et du coup, ben, il y avait pas vraiment de logique dans ce qu'ils faisaient, mais vu qu'ils étaient toujours face aux mêmes machines, ben, le banc de développé couché, ils en faisaient régulièrement, ben, étant donné qu'ils ne faisaient que ça, ils progressaient sur le mouvement parce qu'ils rajoutaient toujours un petit peu de charge. Et ben, ces gens-là, ben, bizarrement, ils avaient des meilleurs physiques que la majorité des gens qui s'entraîneraient dans des salles plus classiques, quoi. Donc c'est pour dire que le simple fait d'augmenter en charge, même s'il y a des petites lacunes à côté, que ce soit sur l'exécution, sur ceci, sur cela, bah, ça va suffire à progresser réellement en musculation, quoi.
Et comment tu gères alors parce que je reviens à Michael Guenil qui me disait ça, comment tu fais, parce qu'il dit ouais mais moi j'en sais rien si demain, si la semaine prochaine ouais, j'aurai la même forme, etc. Ça peut être oui voilà, ça peut être tellement différent. Donc en fait quand je suis à la salle, je suis en forme, ben je pousse, et si je suis moins en forme, je pousse moins. Et puis quand je lui demande, ou quand on lui demande mais comment tu progresses, il dit tu le vois, tu progresses, t'as pas besoin de rajouter des charges inconsciemment, ça va se faire plus ou moins naturellement parce que tu vas progresser et c'est la conséquence plus que la cause.
Déjà, la première chose, donc cet argument-là, ça fait déjà longtemps qu'il le dit, et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait interpellé au moment où il l'a dit. C'est vrai que bah, on maîtrise pas sa forme. Il y a des jours où on est moins en forme, d'autres où on l'est plus, etc. La première chose que j'ai pu remarquer, qui du coup m'a fait un petit peu, on va pas dire contredire, mais avoir un avis différent sur le sujet, c'est que à partir du moment où moi ma diète elle est carrée, je la suis de façon correcte. À partir du moment où mon rythme de vie est plus ou moins stable, du coup, bah, je vais pas me retrouver à aller dormir à 5 heures du matin un jour, avoir 2 heures de sommeil la nuit un autre jour, etc. À partir du moment où, du coup, ces paramètres-là sont plus ou moins stables, mon état de forme, lui, est relativement stable aussi. C'est possible, il y a toujours des petites choses qui font que, bah, voilà, t'es un peu meilleur un jour, un peu moins bon un autre, mais la forme, à un certain pourcentage près, elle sera fort similaire d'un jour à l'autre si le rythme de vie est bon. C'est pour ça que bah, les cycles de progression, au final, bah, peuvent être tout à fait valables. À côté de ça, il existe aussi des cycles de progression qui s'adaptent à la forme, tu vois. Donc, on peut tout à fait travailler avec RPE, des choses comme ça, qui du coup, bah, ça fait que, quand tu sais que, bah, voilà, tiens, aujourd'hui, je me sens vraiment particulièrement bien, ça peut être un jour où, justement, on teste un nouveau record. Ça rentre toujours dans le cadre des cycles de progression. Maintenant, encore une fois, ça reste des choses encore un petit peu subjectives, parce que ça m'est arrivé plein de fois quand je débute une séance, je me sens pas bien, je me dis, bah tiens, j'ai un peu moins dormi cette nuit-ci, ceci, cela, du coup, je sens que je vais pas faire des bonnes perfs. Et au final, bah, j'arrive à faire ce que j'avais planifié, voire plus. D'autres fois où par contre, bah voilà, j'ai bien dormi, je suis en forme, j'ai bien mangé et tout ça, et au final, bah, j'arrive pas à passer les perfs que je devais faire. Donc, je trouve que il faut pas trop se baser, se dire, voilà, je suis en forme aujourd'hui, je le suis pas un autre jour. Se tenir à son cycle de progression, pour moi, ça reste quand même quelque chose qui, en tout cas sur la pratique, sur des années de pratique, ça s'est vérifié sur mes élèves, ça s'est vérifié sur pas mal d'autres personnes avec des bons niveaux que je connais, c'est ce qui fonctionne le mieux. En plus du fait que, je termine juste avec ça,
oui, bien sûr.
En plus du fait que je pense que tout le monde, ou en tout cas toute personne avec une vie active à côté, qui n'a pas que la musculation dans la vie, a besoin d'avoir des repères sur ce qu'il fait, tu vois. L'idée des cycles de progression, de progresser en charge, au-delà du fait que c'est la façon que tu utilises pour prendre du muscle, c'est aussi quelque chose qui va te motiver, tu vois. Moi, si je vais à la musculation pour bêtement pousser des barres, pour bêtement me fatiguer musculairement, je pense que si c'était comme ça, bah, après 3, 4, 5 ans, j'arrêtais la muscu. Ce qui me tient vraiment, ce qui me pousse à continuer la muscu, bah, c'est cette notion de performance aussi, tu vois. Même si mon but, c'est pas d'être le plus fort, mais voilà, c'est ça. Il y a des objectifs qui sont là, à chaque fois, ils évoluent, et tu peux quantifier réellement quelque chose, que sinon, ça reste du subjectif quasi tout le temps, quoi.
Mmh, Et sinon, tu vas, c'est voilà comme si tu allais un petit peu à l'aveugle.
C'est ça, mais clairement, clairement. Et enfin, moi, je fais partie des gens qui ont besoin de plans, qui ont besoin de choses précises, on va dire, pour avancer. Si j'arrive quelque part, que j'ai des tâches à faire, mais que je sais pas exactement quoi, ça va pas être fait. Que si j'ai mon plan qui est bien structuré, que je dois faire ça, 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 ça va être fait dans le bon ordre et ce sera bien fait, quoi.
Et une autre chose aussi sur l'entraînement, quelque chose qu'on entend souvent, enfin c'est voilà, c'est revenu souvent sur les invités que j'ai sur ce podcast. Ouais. Et je veux ton avis là-dessus parce que c'est intéressant. Parce que j'apprécie cette façon
de charger les trucs.
Ouais, vas-y.
Je t'écoute.
C'est qu'en est-il des charges lourdes alors? Parce que je pense à un certain Arsovia qui lui pense, enfin lui dans sa façon de faire, c'est il faut des charges lourdes, surtout quand on est naturel, pour pouvoir progresser. C'est comme ça qu'il a remarqué chez d'autres, c'est comme ça qu'il a remarqué chez lui, et que c'est pas juste en brassant du vent que tu vas progresser. A contrario, je pense à quelqu'un comme que j'ai eu récemment sur le podcast, Arnaud Plaisant, qui est beaucoup moins dans les charges lourdes, mais beaucoup plus dans les charges légères, mais avec des répétitions contrôlées, etc. Bon, alors après, je sais quels sont les arguments contre. Hein, ça pleut dans les commentaires et de ce que je vois. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que il faut que ça soit lourd ou alors il faut pas que ça soit lourd et puis contrôler la charge, cerveau muscle?
Bah là, je pense que mon avis, enfin la majorité des gens, alors qu'ils nous écoutent, le connaissent. Bon, il faut bien se mettre d'accord sur ce qui est charge lourde ou pas. Mais étant donné mon argument par rapport au fait que le corps il s'adapte seulement aux contraintes, si on ne lui impose pas des contraintes suffisamment importantes. Donc des charges au final suffisamment lourdes ou du moins une intensité suffisamment élevée, il va pas s'adapter. Et l'idée de vouloir contrôler de façon excessive la charge, de vouloir se focaliser spécialement sur un ressenti, une sensation ou quoi, c'est pas quelque chose de significatif pour le corps, quoi. Y a plein d'arguments qui peuvent aller contre ça. Par exemple, le simple fait de te dire, ben voilà, moi, ici, juste derrière, ben là, je suis pas sur l'avant, un truc. Voilà, j'ai une machine. Ouais, c'est ça. J'ai une machine, c'est un pec deck, on va dire, entre guillemets, décliné, vu qu'il focalise un peu plus dans l'angle du bas des pecs. Cette machine-là, si je la travaille avec, pas d'échauffement, que je la fais en dehors d'une séance pec, j'ai des ressentis de fou, j'ai l'impression que mes pecs vont se déchirer tellement, la sensation est importante, tu vois. À côté de ça, si je la travaille à la suite d'un entraînement pec où j'ai déjà du coup sollicité le muscle, où il est déjà fatigué, les sensations sont pas du tout les mêmes. Du coup, la sensation n'est vraiment pas, en tout cas pour ma part, encore une fois je dis pas que c'est la vérité absolue, la sensation n'est pas un facteur réel en termes de travail musculaire. Qu'est-ce que je pourrais d'autre dire par rapport à ça? Par exemple, si tu fais un exercice léger, charge contrôlée, un exercice polyarticulaire comme le développé couché, tu vas réussir à ressentir tes muscles, tu vas ressentir tes pecs de façon plus facile que si tu le travailles un petit peu plus lourd. Mais ce qui fait que quand tu travailles lourd, que tu as un objectif fixé, que tu dois passer une certaine perf sur un mouvement, ce qui fait que tu ne ressens pas ton muscle, c'est pas que le muscle ne travaille pas, c'est juste que le corps, il focalise déjà l'ensemble de ses ressources pour réussir à effectuer le mouvement, à réaliser la perf que tu voulais faire. Du coup, il va pas se fatiguer de façon supplémentaire, envoyer plein des signaux à ton cerveau pour lui dire « Ah ben tiens, regarde, tu ressens bien tes pecs, ton muscle travaille. » Si tu ressens ton muscle sur un exercice lourd où tu es censé passer une perf, c'est qu'en réalité, tu as encore beaucoup de marge derrière, c'est juste ça. Je dis pas qu'on sent pas ses pecs quand on fait une bonne perf ou quoi, bien au contraire. Mais c'est pas un signal que le corps cherche à envoyer spécialement, quoi.
Ok, donc
voilà, la sensation, le contrôle, pour moi, c'est juste à garder sur de l'isolation. Quand tu cherches justement à améliorer un petit peu ton recrutement moteur, donc là, on est dans des choses plus précises. Quand, par exemple, ben voilà, t'as du mal à développer tes pecs, à recruter tes pecs plutôt que de les sentir. Quand t'as du mal à recruter tes pecs, là, effectivement, il y a un travail de recrutement moteur à faire pour apprendre au corps à utiliser le muscle. Mais c'est juste un apprentissage qui ne sera destiné ensuite à être transféré sur un exercice réel. Comme un développé couché ou comme Michael Gundy le fait souvent, un exercice sur certaines machines convergentes ou quoi, tu vois. Donc c'est ça l'idée.
Je vois l'idée. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un bon hybride, entre guillemets, ça serait faire une partie de ces séances avec des exercices polyarticulaires cyclés pour avoir cet effet de progression avec charge, et peut-être une seconde partie qui serait moins cyclée, enfin où on pourrait se permettre d'être moins cyclé et plus aller chercher des choses comme ça, du recrutement, des séries plus longues, de s'amuser, être un peu plus à l'aveugle. Pour peut-être expérimenter et découvrir de nouveaux trucs,
mais c'est plutôt
sur une base de progression, ouais.
c'est plutôt ça, et c'est ce dont je parle aussi dans certaines de mes vidéos. Donc les exercices polyarticulaires, les gros exercices où on cherche à forcer, sont là pour faire du muscle. Les exercices d'isolation sont là pour apprendre à ressentir ses muscles. C'est juste ça. Ils sont là pour améliorer le recrutement musculaire. C'est tout. On fait pas du muscle sur l'isolation, et à contrario, si on n'a pas le muscle en point fort, on n'apprend pas à recruter son muscle de façon vraiment efficace sur du polyarticulaire. Maintenant, s'il fallait en choisir que un, si voilà, on dit bah tu fais que de l'isolation ou tu fais que du polyarticulaire, ne fais que du polyarticulaire. Juste que tu auras peut-être plus de mal à rattraper tes points faibles.
Ok, très bien. Voilà, on a un peu la construction selon Kylian. Je dis selon Kylian, même si, parce que
voilà, il y a pas que moi qui ai cet avis-là, mais.
Oui, oui, bien sûr, selon aussi. Kylian, selon d'autres, parce que je sais que ça va, il va y avoir des réactions, et puis il y en a qui sont pas d'accord, et puis je pense que la phrase, moi je suis neutre, je suis toujours neutre là-dedans, hein, j'ai pas d'avis, et puis je m'embrouille avec personne, évidemment.
La phrase,
on ne fait pas du muscle avec de l'isolation. Moi, j'en ai rien à foutre de cette phrase, mais je sens qu'il y en a qui vont pas être contents, parce que ça va contre aussi la façon dont ils
pensent et enseignent les choses. De l'isolation, ils peuvent. Hein. C'est ceux qui veulent, s'ils ont un temps infini pour faire du muscle avec de l'isolation, hein, qu'ils se fassent plaisir. Hein.
Voilà, ça j'aime bien. J'aime bien le truc. Alors, d'un point de vue pratique, alors ça c'est un peu la théorie, on va dire, et on a parlé un peu de pratique, mais si on plonge un peu plus dans la pratique, sans forcément aller creuser tous les cycles ou quoi, c'est comment on s'organise un cycle, parce que tu dis on va pas rajouter des poids chaque semaine. Évidemment, on se rend compte que de toute façon, quand on fait ça, c'est pas tenable. Au bout d'un moment, on arrive sur un plateau, et puis bon, on peut pas progresser à l'infini comme ça. Mm-hmm. Et puis, il faut utiliser donc des stratagèmes en termes de cycle de progression pour essayer de continuer à progresser petit à petit. Est-ce que t'as des dizaines de cycles dans ta besace que t'organises en fonction des personnes, de la morpho, du passé, du passif de la personne, ou alors c'est t'as ça. Des choses qui sont t'as un ou deux trois modèles et qui fonctionnent à tous les coups.
En gros, il y a des cycles, on va dire, plus de base qui sont faciles à mettre en pratique. Je reprends par exemple l'exemple de travailler sur une fourchette de répétition. Donc, on va dire c'est un demi-cycle. En gros, tu vas te fixer une fourchette de répétition, par exemple entre 7 et 10 reps. Première semaine, tu vas faire 7 reps avec une charge, on va dire X kilos. Deuxième semaine, 8 avec X kilos. Ensuite, 9 avec X kilos. Et puis 10 avec X kilos. Là, tu as fini du coup, on va dire, la première étape de ton cycle. Une fois que tu as validé tes 10 reps avec X kilos, tu redescends à 7 reps et tu fais X plus 2,5 kilos par exemple. Et tu remontes comme ça. Tu vois, c'est vrai que je ne sais même pas si je peux appeler ça un cycle de progression. C'est plus une démarche de progression, quoi, tu vois. C'est quelque chose que tu peux suivre sur le long terme sans trop de soucis. Tu n'as pas besoin d'avoir ton fichier Excel à l'avance pour savoir, ah ben tiens, aujourd'hui c'est ça. Non, tu sais que si la semaine passée, c'était 3 x 7 avec tes 50 kilos, par exemple, mais la semaine suivante, c'est 3 x 8, tu vois. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, de façon facile, peut te faire progresser. Beaucoup de personnes trouveraient ça trop simple, peut-être, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est ce que j'ai encore actuellement, moi, sur la majorité de mes exercices. Donc ouais, non, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de cycle-là, que ce soit à travers la fourchette de répétition choisie, à travers le step que tu feras d'une séance à l'autre, donc faire plus une rep, plus deux reps ou quoi, ça va dépendre non seulement de la personne, de son niveau du coup, ça va dépendre de l'exercice que tu choisis aussi, tu vois. Par exemple, sur des élévations latérales, je cyclerai de cette façon-là, j'aurais plutôt tendance à faire un cycle sur une fourchette plus large, entre 12 et 20 reps par exemple. Et c'est toutes des petites choses comme ça qui vont faire que je vais modifier les démarches pour cette logique de progression là, quoi, tu vois. À côté de ça, il existe des cycles plus, on va dire plus carrés, qui vont travailler sur des pourcentages, des choses comme ça, où là t'es un peu plus dans l'obligation entre guillemets d'être face à ton fichier Excel et tu vas devoir regarder tiens, semaine 1 je dois faire ça, semaine 2 je dois faire ça. C'est par exemple le cas pour des cycles ondulatoires ou des choses comme ça, où ça va pas monter de façon linéaire. Justement, ça va monter, descendre, monter un peu plus, redescendre un peu plus, ou ça va être ondulatoire, comme le nom l'indique.
Ok, bon, plein de. Alors, si on veut creuser plus loin, hein, évidemment, on prend renseignement sur toi, sur ce que tu fais. Je mettrai les liens là, s'il y en a qui veulent aller. Mais c'est peut-être ceux qui te connaissent déjà, parce que c'est pas là en 30 minutes qu'on a convaincu des gens qui ne te connaissent pas peut-être avec toi, mais certains qui sont. Parce que c'est des choses dont tu parles dans tes vidéos de temps en temps, mais un peu moins. Tu sais, moi, j'aime me poser des questions un peu, essayer d'aller comprendre un peu plus profondément. Je voulais revenir sur une chose aussi. Oui, c'est cycle de. Alors cette façon de progresser, on entend bien que c'est naturellement t'étais porté là-dessus sur avoir une espèce de structure et d'avoir quelque chose d'objectif à chaque séance ou presque. Ça, tu l'as découvert avant Superphysique ou c'est Superphysique. Comment ça s'est agencé dans ta tête et
ouais. Bah, en fait, ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose que j'ai directement compris de par moi-même. Ça s'est validé du coup par le fait que sur Superphysique j'ai vu que les gens procédaient comme ça. Mais moi, quand j'ai commencé la muscu, bah, j'ai compris et je trouve ça tout à fait logique que bah, si tu veux progresser, si tu fais tout le temps la même chose, si tu augmentes pas tes charges, tu vas pas progresser. Donc si tu veux progresser, il faut chercher à augmenter. Et du coup, une des premières choses que j'ai fait, je m'étonne même maintenant avec le recul de l'avoir fait directement, c'est de me faire un petit carnet. À ce moment-là, j'avais juste la bête machine où t'as plusieurs poulies, où t'as un truc où tu peux pousser, où t'as leg curl, leg extension dessus, et une sorte de pec deck, quoi, tu vois. J'avais juste cette machine-là, et je m'étais fait un petit programme, voilà, lundi je fais ça, lundi je fais ça, et à chaque fois je notais mes charges, et mon petit jeu, à ce moment-là, bah, c'était déjà ce qu'il fallait faire, hein. je devais augmenter un petit peu à chaque séance, tu vois. Il n'y avait pas de vraie logique, j'avais pas fixé de fourchette de répétition précise, mais mon but, c'était de faire un petit peu mieux à chaque séance. Et comme j'ai dit, bah, c'est de par justement ce que j'ai pu trouver sur Superphysique, ce que j'ai pu trouver sur d'autres sources parfois aussi, que j'ai compris, bah voilà, en fait c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est bien établi, et c'est ça réellement qu'il faut faire pour progresser, quoi. Donc voilà, maintenant c'est parce que on voit vraiment tout et n'importe quoi sur Internet, c'est parce que des gens disent des choses opposées qu'on ne pense plus naturellement aller vers là. Mais moi, quand j'avais pas toutes ces sources d'informations là, que lui parle de ressenti, que lui il contrôle ses exercices, bah, au début, ça me paraissait tout à fait logique de chercher à progresser sur ses charges. C'est la base de tout, et c'est parce que maintenant on essaye de contredire ça que on remet ça en question. Mais c'est un peu ridicule, quoi, tu vois.
Tu lances ta chaîne quand exactement là dans cet historique là? Combien de temps après tout ça?
Quand même longtemps, parce que, comment dire, mon but au début, c'était pas de parler sur YouTube, c'était pas de montrer ceci, cela. Moi, je suis pas quelqu'un qui poste spécialement sur les réseaux, tu vois, de base. Genre, ma page Facebook, je mettais quasi rien dessus avant tout ça. Et du coup, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Donc, j'ai d'abord commencé par une page Facebook, entre guillemets, sur le sport. Après, à mon avis, c'était après 4-5 ans de muscu, un truc comme ça. Ouais, ça viendrait plus ou moins... Ça reviendrait plus ou moins avec ce que je disais, ça fait plus ou moins 5-6 ans que j'ai la chaîne YouTube, un truc comme ça. Donc ouais, après 5 ans de muscu, je pense.
À quel moment t'as commencé à avoir à participer aux compétitions de Superphysique, les Superphysique...
Superphysique Games.
Ouais, Superphysique Games,
ça, ouais. Ça, j'ai commencé dès que ça existait, parce que Rudy a lancé ça alors que moi j'étais déjà bien établi sur Superphysique. Je pense que j'étais déjà... Non, j'étais pas encore dans la team à ce moment-là, c'était au tout début. Ouais, il a lancé ça... Après mes 4-5 ans de muscu, je pense. Donc ouais, j'ai commencé directement au premier Superphysique Games. Et ouais, c'était quelque chose qui, encore une fois, permettait justement d'avoir encore plus cette motivation-là de se fixer des objectifs. C'est quelque chose qui, je pense, a motivé pas mal de monde à continuer à progresser en musculation parmi les gens qui participaient, quoi.
Est-ce que t'as été déçu quand il a décidé d'arrêter, là? C'était l'année dernière, je crois, de fermer un
ouais,
peu le...
c'est ça, c'était l'année dernière, du coup, qu'il n'y a pas eu, donc... En 2020, bah, déçu, oui et non. Enfin, c'était une habitude, en fait. C'était plus pour le petit événement qu'on faisait ensemble, qu'on se revoyait tous, etc. Chaque fois, il y avait des nouveaux, donc on découvrait de nouvelles personnes.
Parce qu'en plus, t'avais une bonne place à chaque fois.
Ouais, pas assez bonne, mais bonne quand même. Non, c'était plus pour le fait, bah voilà, les petites vacances amusantes, entre guillemets, à Annecy, bah, sont annulées, quoi, tu vois. C'était plus pour ça. Mmh. Parce que c'était un chouette moment de partage et tout ça. Voilà, je sais pas s'il les refera, mais on verra.
Ouais, bah c'est vrai qu'après, avec tout ce qui s'est passé, les rassemblements, tout ça, ça a été mis de côté. Et puis bon, et oui, non, mais quand je dis que t'avais une bonne place, c'est que quand même tu terminais souvent sur le podium, quoi.
Ouais, j'ai fait quatrième quelques fois, ouais, je pense. Mais bon, si on le refaisait cette année, je finis premier.
Ouais, premier, c'est sûr. Mais vous tenez.
Ouais, au prochain, il faut que je finisse premier. Ouais. À chaque fois, on était tous très très proches. Il y avait souvent Clément. Je sais pas si tu vois qui c'est, Clément.
Non.
Son de famille, je pourrais plus dire c'est quoi. C'est Boudin, quelque chose comme ça. Enfin, en gros, c'est un gars qui fait beaucoup de power, lui, de base, mais qui a un super physique. Il est vraiment très bon. À chaque fois, lui, il était premier, avec un petit cran d'avance sur nous. Puis on se retrouvait avec Rudy, Morgan et moi, à se disputer pour les trois places qui suivaient, quoi. Nous, on était vraiment sur un mouchoir de poche, quoi.
Ouais, non, mais ça, c'est sympa. C'est et puis c'est l'émulation. Alors moi j'ai pas été là-dedans. Enfin, je suis pas voilà. C'est mais par contre de regarder ça un peu de loin parce que ça fait longtemps que je suis Rudy Koya. Fait que je regarde un peu ce qu'il fait et forcément là où je te rejoins c'est sur l'idée d'avoir des objectifs un petit peu au court moyen terme, c'est que ça te donne une source de motivation que tu peux perdre assez facilement quand tu vas. Alors ça c'est un truc aussi parce que ça se répète souvent, c'est le fait que quand tu vas à la salle, si tu veux progresser, si tu veux gagner en perf ou gagner en muscle, c'est qu'à un moment donné il faut sortir de ta zone de confort entre guillemets. Et puis ceux qui ne parlent pas de cycle par exemple, qui ne pensent pas à la structure, ils vont souvent te parler, ils peuvent dire il faut sortir de ta zone, c'est-à-dire qu'il faut aller au bout, faut peut-être faire de l'intensité, et moi je reste assez d'accord dans le fait que si tu fais vraiment ça à fond, tu vois, comme quand tu vois les entraînements de Gundil, c'est qu'à un moment donné le mec il s'arrache, tu dis effectivement c'est que à ce moment-là, tu pousses tellement le corps que il va s'adapter et peut-être que les cycles de progression n'ont peut-être pas ne sont peut-être pas obligatoires lorsque tu fais ça, mais en réalité, qui est capable psychologiquement d'aller tous les jours en salle sans repère de fourchette de répétition et de se pousser à ce niveau-là? Parce que ça, tu vas le faire quand t'as une grosse motivation pendant quelques jours, pendant quelques semaines, mais au bout d'un moment, aller toujours sans repère clair, aller toujours hors de ta zone de confort, c'est très difficile de pousser les répétitions jusqu'à son maximum. Parce qu'il y a énormément de parts de psychologie.
Pour ma part, en tout cas, moi, c'est mon avis subjectif sur le sujet. Je ne connais pas Gundil personnellement, mais je connais très bien son travail, etc. Pour ma part, c'est quelqu'un qui se connaît très, très bien. Des gens qui se connaissent aussi bien que Gundil, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment très, très peu. Je crois qu'on peut compter ça sur les doigts d'une main. Des gens qui ont aussi ses connaissances. Donc, ils se connaissent non seulement, mais ils peuvent interpréter les informations qu'ils perçoivent. Il y en a encore moins. Donc, s'entraîner comme Gundil, si t'es pas Gundil, tu vas avoir du mal, quoi. C'est un peu ça l'idée. Lui, ce qu'il fait, bah, ça fonctionne. C'est que physiquement, on le voit pas souvent physiquement ressortir récemment, on sait pas s'il progresse, tout ça. Mais, c'est quelqu'un qui a déjà, en tout cas, par le passé, c'est certain, t'as un très bon physique. C'est quelqu'un qui fait les choses bien. Mais, est-ce que c'est transférable sur une grosse proportion de personnes? Je pense pas. Non seulement ils n'ont pas accès aux machines que lui a. S'ils y avaient même accès, bah, est-ce qu'ils sauraient se placer, les utiliser correctement? Je suis pas sûr. Et puis, bah, ils arrivent pas à interpréter les signaux qu'ils reçoivent comme lui le fait. Donc, sa façon de faire, je pense que c'est la façon de faire de quelqu'un qui maîtrise quasi tout. Sauf que, bah, il y a pas beaucoup de monde qui sont dans sa situation, quoi. C'est ça l'idée.
Et puis qui est d'une certaine façon aussi passionné et peut-être obsédé dans un sens, parce que je pense que pour s'entraîner pendant des dizaines ou une vingtaine d'années avec ce niveau d'intensité, faut être obsédé, mais obsédé pas forcément dans le mauvais sens du terme, encore que tout est tout peut être vu selon un angle de perception, mais faut être obsédé vraiment par le processus.
Si j'en arrivais à par exemple à ce que Gundil a en termes de matériel chez lui, en termes de connaissances, j'ai des connaissances différentes de lui, c'est pas vraiment la même chose, mais si j'en arrivais exactement à ce qu'il a, je ne dis pas que je ne tendrais pas à faire des entraînements similaires aux siens. Ça, je saurais pas le dire là comme ça, mais ce serait pas quelque chose d'étonnant non plus. Sauf que, moi, je pense que je garderais quand même toujours cette notion de performance là, parce que, je trouve ça, on va dire, un peu kiffant, quoi. C'est un peu l'idée, les gens qui font du soulevé de terre, même s'ils savent que musculairement le mouvement, il leur apporte peut-être pas grand chose, c'est tellement un pied pour eux de pouvoir pousser des charges de fou, ils continuent, quoi, tu vois. Après, il y a aussi toute la notion de blessure, de pathologie. C'est vrai que en s'écoutant uniquement, en n'étant pas entre guillemets poussé par un cycle de progression, on peut peut-être aussi arriver à mieux contrôler tout ça, quoi, à mieux aller, à ne pas aller trop loin dans l'effort quand il ne faut pas, des choses comme ça. Maintenant, pour une fois, il faut s'y connaître à 100%. Il faut maîtriser tous les paramètres, quoi. Chose que, je crois que parmi tous les gens qui nous écoutent, à moins de tomber, sur la pépite, personne ne sera dans cette situation-là, quoi, tu vois.
J'entends, ouais. Tu vois, sur ta bannière, t'as toujours le site superphysique.org.
Ouais, c'est possible.
Je vais te poser une question qui attise complètement ma curiosité. C'est que j'ai souvent associé ton image. Depuis que t'es arrivé, alors je t'ai peut-être pas connu dès les premiers mois, mais dès que t'as commencé à monter un peu sur YouTube, évidemment, je sais pas, ça remonte à peut-être, comme je disais, si Tienne, quand il a parlé de toi, c'était il y a 6-7 ans, donc ça fait une dizaine d'années, peut-être que je te, enfin une dizaine d'années, environ 10 ans, je sais plus exactement quand t'es arrivé, mais que je te vois sur, enfin, je t'ai pas découvert le mois dernier, c'est ça que je veux dire.
C'est ça.
Et c'est que je t'ai longtemps. Toujours associé à Super Physique, probablement parce que t'as déjà fait un feat avec Rudy, probablement parce que dans la façon dont tu expliques les choses, je reconnais un peu ce qu'avait pu faire Rudy Koya aussi. Enfin, je veux dire, vous avez une même structure, une même façon de penser dans l'entraînement. Alors, je t'ai souvent associé à ça, le fait peut-être aussi que tu aies marqué le nom du site sur ta bannière. Et je me suis toujours dit, tiens, c'est bizarre, il fait quand même énormément de pas de pub, mais tu sais, de pour Super Physique. Est-ce qu'il travaillerait pas pour Super Physique?
Non, je ne reçois rien de Super Physique. La seule chose qu'il y a, c'est Grudy, c'est ton ami. C'est quelqu'un qui, au final, comme je l'ai dit, je suis rapidement tombé sur le site Super Physique quand j'ai commencé la muscu. Donc, non seulement il a permis, en tout cas le site, tous ses articles, que ce soit les siens ou ceux d'autres personnes, ont permis à moi d'établir vraiment les bases que j'ai. Ils ont vérifié certaines choses, ils ont validé, et puis du coup, ils m'ont apporté des informations que je n'avais pas. Du coup, j'estime que les connaissances que j'ai sont en partie dues aussi à Super Physique. C'est pas une façon de remercier, de dire ceci, cela ou quoi, mais c'est juste que si je dois conseiller quelque chose à quelqu'un, voilà, quelqu'un qui veut apprendre sur la musculation, je vais recommander Super Physique. Pas pour leur faire plaisir à eux, mais parce que c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon, et c'est ce qui pour moi a été vérifié et validé, quoi, tu vois. C'est un peu dans cette idée-là. Après, l'idée qu'il y a le site Super Physique sur la bannière, c'était plus aussi parce que j'étais dans la team Super Physique. Enfin, j'y suis toujours. Je suis dans la team Super Physique. Que du coup, à ce moment-là, quand on a commencé, c'était toujours un petit peu quand même l'époque des forums. L'époque, t'es dans une team, t'es un peu dans un groupe de personnes, tu vois. Et voilà. Puis j'ai eu aussi un petit code promo sur la boutique Super Physique à une période. Maintenant, je pense que c'est un code promo qui ne fonctionne plus. Mais voilà les raisons pour lesquelles tu peux retrouver pas mal de choses Super Physique. Ça fait clairement partie des sources que j'ai eues.
Oui, ton héritage.
Progresser en musculation, hein, c'est ça.
T'as pas peur que dans une certaine mesure, ceux qui découvrent, peut-être pas en ce moment, parce que maintenant quand même dans la façon dont tu t'exprimes, et puis sur ton site, tout est extrêmement bien écrit. Mais quelqu'un comme moi qui te connaît depuis plusieurs années et qui aurait décidé qui voudrait à un moment donné prendre les ressources d'un coach, d'un entraîneur, de quelqu'un qui suit, que justement ne pense pas directement à ce que tu pourrais faire toi, mais se dirait, tiens, en fait c'est juste un transmetteur d'informations, mais il parle de Super Physique, donc maintenant si j'ai envie de me faire coacher, par exemple de me faire suivre, j'irai chez quelqu'un d'autre et pas forcément chez toi, du fait peut-être parce qu'il sait pas que toi-même tu proposes quelque chose et que tu sais ça renvoie la personne inconsciemment ailleurs, quoi, et que ça te desservirait d'un point de vue personnel.
À ce niveau-là, non, c'est pas quelque chose qui me fait peur, parce que je ne vois pas Super Physique comme le créateur, la source d'une méthode magique de musculation, quoi. C'est juste que ils font partie des gens qui proposent quelque chose qui fonctionne, qui proposent quelque chose de réel. C'est juste ça, c'est une source d'information. C'est comme se dire, lui il a lu la méthode de Lavier, mais du coup lui aussi il parle de la même chose, donc je vais peut-être chez l'autre. Moi, je vois pas ça comme ça du tout. Après, on a chacun sa vision des choses. Moi, Super Physique, c'est quelque chose qui m'a appris. Mais comme j'ai dit, à chaque fois, quand j'ai une information théorique, je la mets en pratique. Il y a des avis sur lesquels, par rapport à Rudy, moi, je vais diverger un petit peu. Même chose de son côté. On va pas toujours être d'accord sur tout.
T'as des exemples?
Comme quoi. C'est qu'il y a des exemples que je pourrais trouver. Il faudrait que je réfléchisse un peu, parce qu'on avait discuté de plusieurs choses. Oh, ça, c'est un bête truc, par exemple. Les crunchs avec les Gravity Boots. Je sais pas si tu vois, si t'as vu cette vidéo-là. Donc, en gros, c'est des bottes que t'attaches aux chevilles.
C'est des crunchs inversés, quoi.
Que tu peux ensuite suspendre une barre fixe, et tu vas faire des crunchs, quoi. Ils avaient eu un petit débat sur un podcast Super Physique. Ouais, c'est bizarre que Kylian y mette cet exercice-là, ceci, cela. Alors que pour moi, j'avais tous les arguments que pour justifier ça, tu vois. Donc non, il y a plein des petits sujets sur lesquels on peut être opposé. Maintenant, l'idée générale, les principes de base, ils sont les mêmes, quoi, tu vois. C'est un peu ça l'idée.
Ok.
Maintenant, comme j'ai dit, si on refait les Super Physique Games, je battrai Rudy. Donc il n'aura plus rien à dire, tu vois. C'est que moi, ça fonctionne mieux que lui, tu vois.
Rudy, si t'écoutes, si t'es là, tu sais, ne refais pas des Super Physique Games, parce que tu seras rétrogradé.
Ah, tu vas te faire botter les fesses, quoi.
Et t'as toujours voulu être coach, ou en tout cas t'as vite été coach, ou alors t'as lancé ta chaîne juste pour t'amuser comme ça, et sans forcément avoir l'objectif derrière d'en créer un tout un système de professionnel, quoi.
Ouais, donc en fait, depuis que je suis petit, mais depuis que je suis aux études secondaires, donc en Belgique secondaire, c'est entre 12 et 18, on va dire, j'ai cette idée d'être coach sportif, préparateur physique, quoi, tu vois. Du coup, avant d'avoir lancé ma chaîne YouTube, j'étais déjà dans les études universitaires, par exemple, en sciences de la motricité, donc dans le sport. J'étais même déjà, je pense, ouais, j'avais déjà fait ça et j'étais passé aussi, j'avais commencé les études en diététique. Donc non, j'avais déjà commencé tout ce qui était études avant de lancer ma chaîne YouTube, donc j'avais déjà cet objectif de devenir coach. La chaîne YouTube, je l'ai pas lancée spécialement pour une raison précise. Maintenant, c'est vrai que je me suis toujours dit que ce serait aussi un bon moyen de me donner de la visibilité une fois que j'aurais réellement commencé à travailler, quoi, tu vois.
D'accord, donc c'est venu avec la petite idée.
C'est des choses qui se sont faites petit à petit. Il y a toujours un objectif, on va dire, plus ou moins pas flou, hein, mais il y a eu un petit objectif derrière. Mais les plans n'étaient pas non plus précis. Je fais ça comme ça, je fais ça comme ça. Il y a un objectif qui a guidé, on va dire, toutes les démarches, quoi, mais sans plus.
Est-ce que tu te souviens de ta première séance, ta toute première séance quand t'es rentré dans une salle? Est-ce que c'était pour de la force?
Ben, la toute première séance que j'ai faite, c'était chez moi. C'était avec le petit matériel que j'avais justement, enfin la machine, et j'avais aussi une paire d'haltères, je crois que c'était des 3 kilos. Et j'avais fait des curls, tu vois, enfin c'est le mouvement le plus simple à faire, t'as pas de matériel, t'as juste des haltères, tu fais des curls. Et c'était avec 3 kilos, et je me souviens que j'ai traîné des courbatures dans les biceps pendant 5-6 jours, un truc de fou, hein. Franchement, je jouais toujours foot à ce moment-là, et je me souviens encore, j'étais sur le terrain, j'avais mes bras qui me faisaient mal et tout, et j'avais l'impression que j'avais pris des biceps et tout, tu vois, qu'ils étaient énormes. Donc ouais, voilà, c'est le souvenir le plus ancien que j'ai sur mes entraînements.
Ok, et ta première fois dans une salle complète?
Ouais, ça je me souviens aussi. Donc là, c'était un ami qui s'entraînait justement dans cette salle-là et qui m'avait dit, écoute, viens tester une séance en salle de muscu. J'y étais allé et ouais, on avait encore fait des curls, les curls à la barre Z. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Je sais pas si on avait fait le développé couché, on avait fait des extensions triceps à la poulie haute. Et voilà, enfin j'ai les images dans ma tête de la séance, maintenant exactement tout ce qu'on a fait, je pourrais plus te le dire. Mais j'avais bien aimé, quoi.
Question un peu con, qui est jamais con d'ailleurs, mais con dans le sens où c'est pas facile de trouver la réponse au premier abord comme ça. Mmh. Mais bon, j'imagine que tu y as déjà pensé. D'où tu penses que ça devient cette envie ou cette passion, ce désir de vouloir se muscler, de vouloir être plus balèze, de vouloir progresser physiquement. Est-ce qu'il y a, je sais pas, je balance ça comme ça, un trauma entre guillemets, ça dépend de ce qu'on appelle trauma, mais ça vient rarement de nulle part. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Bah pour ma part, ça vient pas vraiment d'un trauma, ça c'est sûr. J'ai pas eu un événement triste ou quoi qui a fait que je me suis mis à la musculation. Ce qui pourrait avoir poussé à tout ça, bah il y a non seulement le fait, bah j'ai toujours bien aimé tout ce qui est Dragon Ball, tout ça, tu vois. Donc Dragon Ball, bah des mecs musclés, l'idée de faire toujours mieux, de progresser, d'affronter des ennemis toujours plus forts, il y avait ça. Et puis aussi le fait que je faisais du foot, là plus pour le côté esthétique du coup, et j'ai toujours trouvé que j'avais des très grosses jambes par rapport à mon buste, tu vois. Donc moi, fallait les cuisses, je les ai en point fort, et elles étaient déjà en point fort avant que je fasse de la muscu. Et du coup, bah quand je me regardais dans le miroir, je me disais, bah purée, j'ai l'impression que mes jambes de profil, elles sont plus épaisses que mon tronc. Enfin, tu vois, c'était, je trouvais que c'était pas proportionné, quoi. Donc, pour ma part, c'est ces deux petits éléments-là qui ont fait que je me suis mis à la musculation. Ensuite, ce qui a fait que je m'y suis tenu, non seulement je voulais progresser physiquement, je voulais toujours avoir un meilleur physique, mais c'est surtout quand même l'idée que moi, je veux faire toujours mieux, tu vois. Quand il y a un domaine que j'apprécie, que je comprends bien aussi, je veux toujours aller un petit peu plus loin. Donc là, par exemple, physiquement, quand j'ai commencé à la musculation, je me serais jamais dit que j'allais atteindre ce niveau-là, tu vois. Donc physiquement, je vais dire, dans ma tête, je veux pas aller encore beaucoup plus loin. Mais c'est l'idée de vouloir faire toujours mieux, pas pour être plus musclé, mais pour faire mieux, tu vois, qui fait que je continue, quoi. Que ce soit pour les perfs, pour le physique aussi et tout ça, mais c'est vouloir faire mieux. Et ça se transfère à tous les domaines, tu vois. Par exemple, au niveau de mes coachings, je veux toujours proposer des coachings plus intéressants, plus rentable encore pour les gens que je vais suivre. Je veux toujours faire mieux quand il y a un domaine que j'apprécie, quoi. C'est ça l'idée.
Est-ce que des fois tu dis que c'est pas une façon d'être dans une roue c'est alors là on réfléchit hein, il y a aucun jugement ou quoi, parce que c'est des questions que je me pose aussi, et puis je me reconnais dans cette façon de vouloir toujours faire mieux, de progresser, de structurer les choses. Est-ce qu'à un moment donné ça t'arrive de prendre du recul et de dire putain Pourquoi toujours? Est-ce que c'est pas d'où vient cette pression de vouloir faire mieux? Est-ce que tout ça on n'est pas dans le faux depuis le départ et que finalement c'est pas question métaphysique absolue, hein, y a pas de on décroche de la réalité quoi, tu vois?
Bah pour ma part, j'ai un petit peu ma réponse à ça vu que c'est déjà quelque chose auquel j'ai réfléchi. À chaque fois que je suis dans des situations où il y a une stabilité, je sais pas si c'est le mot, mais une monotonie, on va dire, qui se dégage. Donc, on est dans une situation stable où il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de régression. Je me sens comme mort, quoi, tu vois. Il se passe rien. C'est comme si t'es face à un écran de TV, il se passe rien derrière. C'est pas intéressant. Du coup, à chaque fois, je vais vouloir créer, cette petite pression, cette petite chose qui va faire que je vais sortir de la zone de confort, tu vois. Et c'est à travers, cette sortie de la zone de confort là, que je trouve réellement mon confort, même si ça peut paraître un peu pas clair, mais c'est à travers l'inconfort que je trouve quelque chose qui, moi, me plaît à tenir sur le long terme, tu vois. Si j'arrive sur une situation trop stable, qu'elle dure longtemps, ben, j'ai l'impression que j'ai fait du surplace, que ben, ça ne servait à rien. Je pouvais dormir, c'était la même chose, quoi, tu vois. J'ai toujours envie d'être dans cette situation un petit peu d'action, on va dire, où il se passe quelque chose, où je vais potentiellement pouvoir créer quelque chose de nouveau, m'améliorer et faire toujours un petit peu mieux. C'est vraiment cette notion-là. Faire du surplace, pour moi, ça sert à rien autant de pas être là, quoi, tu vois.
Ok. Bon, très bien. Ça répond parfaitement au truc. C'est l'évolution, d'être en évolution et pour se sentir grandir, quoi.
Voilà, c'est ça.
Comment tu t'intéresses à la nutrition, la diététique? Question que j'ai déjà posée sur ce podcast dans un épisode précédent, mais que je vais te redemander parce que j'ai un petit peu oublié. Puis c'est toujours un petit peu. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, mais c'est toujours un petit peu très flou et aussi d'un point de vue légal et quoi utiliser comme nom, enfin quels sont les diplômes. Ouais. Diététicien nutritionniste, c'est différent. Lequel choisir, lequel est mieux, lequel te donne accès à plus de poids?
Pour ça, du coup, la réponse sera pas la même en fonction du pays où tu habites, vu que les règles sont pas les mêmes. En Belgique, par exemple, la seule, le seul diplôme reconnu pour pouvoir faire des programmes alimentaires personnalisés, c'est diététicien. Si t'es pas diététicien, tu peux pas faire ça. Moi, c'est le diplôme que j'ai. À côté de ça, si tu t'appelles nutritionniste, tu peux l'être sans avoir de diplôme. Donc, imaginons, un gars qui a 21 ans, il fait de la muscu, il aime bien. À côté de ça, il est peut-être menuisier. Il a envie de se dire nutritionniste. Il peut être nutritionniste légalement. Sauf que ce serait illégal qu'il fasse des programmes alimentaires personnalisés. Il peut donner des conseils sur l'alimentation, mais il ne peut pas faire des programmes alimentaires personnalisés. Ça doit être des conseils génériques, en fait.
Mais la limite peut être assez fine, quoi, parce que tu peux très bien donner des conseils.
Oui, c'est clair.
Et que ça représente un programme, mais pour autant que ça soit pas structuré comme un programme.
Plein de gens jouent là-dessus, tu vois. Plein de gens jouent là-dessus. Quand tu vois plein des pseudo-coachs en salle de sport, que les mecs, ils ont des bons physiques parce qu'ils sont chargés et que du coup, ça leur donne une crédibilité aux yeux des gens qui n'y connaissent rien. Voilà, ouais, moi, je suis nutritionniste, ceci, cela. Il y en a plein qui jouent là-dessus. Ils te font des programmes de merde. C'est vrai qu'on pourrait même dire que c'est des programmes génériques dans leur cas, vu qu'ils donnent le même à tout le monde. Mais ils profitent d'un statut qui n'est pas, on va dire, protégé. À côté de ça, il y a encore aussi nutritionniste, ça s'appelle aussi, pour les médecins. Donc ça, c'est des médecins qui ont fait en plus des formations de nutrition. Donc ça s'appelle tous les deux nutritionnistes quand c'est pas protégé ou quand c'est un médecin qui a fait des études en nutrition.
Oui, sauf que le médecin qui a fait les études en nutrition,
voilà, je sais pas ce que ça vaut les études en nutrition que les médecins font. Je sais pas si c'est poussé, j'en sais rien. Les seuls médecins nutritionnistes que je connais, les conseils qu'ils donnaient, franchement, c'était très banal, tu vois. Donc, je sais pas ce que ça vaut. Comme pour tout, je pense qu'il doit y avoir des bons et des mauvais. Pour la France, c'est encore un peu différent. Donc, diététicien, c'est un petit peu la même chose qu'en Belgique, sauf que je crois que c'est moins d'années d'études. Et là, il y a aussi, du coup, c'est médecin nutritionniste, je pense, c'est aussi un truc comme ça, où là, c'est une étude spécifique, donc c'est pas vraiment des médecins, mais c'est des médecins nutritionnistes. Je pourrais pas en être certain de ça, il faudrait voir avec des Français plutôt, mais je pense que c'est ça. Et là, c'est des études en 5 ans, quelque chose comme ça, 5-6 ans, quoi. Des études, on va dire, longues.
Je fais la référence et j'envoie au podcast l'épisode que j'ai fait avec Jordan Belloun Jolie, puisque lui aussi il est dans ce milieu et puis il travaille en France. Donc j'en avais parlé avec lui.
Ceux qui veulent aller, c'est à mon avis pour apporter des informations plus précises sur ce sujet-là.
Je l'ai enregistré il y a plus d'un an, okay. Il y a plus d'un an, je crois, donc c'est vrai que.
Parce que pour la Belgique, moi, les informations, elles sont certaines. Pour la France, je pense que c'est comme ça.
Ok. Toi, quand tu te mets sur ton site, par exemple, diététicien nutritionniste, en fait, c'est diététicien qui compte. Ouais, si je comprends, c'est que le nutritionniste, tu le rajoutes pour le public qui ne connaît pas et pour ce.
En fait, c'est pour le public qui non seulement ne connaît pas et pour le public français qui pourrait ne pas bien comprendre aussi le terme. Donc, pour les Belges qui connaissent pas et pour les Français qui pourraient ne pas bien comprendre le terme vu que la nomenclature n'est pas la même.
D'accord. Alors, qu'est-ce que, hormis le fait de faire des plans alimentaires, tu vois, d'être légalement, d'avoir le droit de faire des plans, qu'est-ce qu'un diététicien c'est plus ou a plus appris qu'un nutritionniste? Est-ce que c'est, on rentre dans la physiologie, dans la biologie, l'alimentation, la
Tu parles du coup là du nutritionniste qui n'a pas de formation, c'est ça ou?
Non, je parle du diététicien qui a été formé entièrement. Ouais. On va dire qu'est-ce qu'il sait de plus? Quelles sont les compétences qu'il a de plus qu'un nutritionniste qui pour le coup n'a pas fait d'études, mais qui peut-être aurait lu des bouquins, etc. C'est quoi la valeur sûre de faire des études de diététicien? Qu'est-ce qu'on apprend de plus, en fait, qu'on ne pourrait pas apprendre juste par soi-même en lisant des bouquins?
Bah, en gros, la première chose, à voir si c'est intéressant pour les gens ou pas, bah, t'as tout le bagage scientifique derrière, tu vois. Donc, en gros, les études de diététique, durant les premières années, tu vas quasi avoir que des sciences. Bah, les sciences de base, bio, physique, chimie, mais on va aussi rentrer dans la physiopathologie. On a aussi beaucoup de labos réellement de chimie. Ça va tourner un petit peu vers tous les domaines de la science qui vont avoir un lien plus ou moins étroit avec la diététique. Par exemple, ben, je pense à la biochimie, que ça, on en a bouffé des tonnes. Tous les tableaux, les réactions biochimiques et tout ça, des bazars qu'on n'en sort plus, ça, bon, on devait les connaître par cœur. C'est pas toujours des trucs qui servent, hein. Ça, on est bien d'accord. Franchement, il y a une grosse perte de temps là-dedans, je trouve. Mais c'est vrai que on a une base scientifique qui est quand même beaucoup plus importante. Après, au niveau de la partie réellement diététique, ça va être beaucoup plus large en termes de connaissances. Par exemple, en étant diététicien, j'ai eu quasi autant de cours de nutrition enfant que de nutrition adulte. Nutritionniste, lui, qui veut, bah, par exemple, coacher des gens en musculation, il va pas s'intéresser à la nutrition enfant. Je dis pas que ça lui servirait, mais ça permet parfois de faire des liens et de trouver de nouvelles idées, par exemple. Mmh. Nous aussi, ce qu'on avait beaucoup, c'était des stages, tu vois. Des stages qu'on a, par exemple, fait en hôpital. Donc, j'ai fait plusieurs heures, beaucoup d'heures, quand même, des semaines et des semaines, des mois même de stages en hôpital avec des gens qui avaient différentes pathologies, tu vois. Que ce soit des pathologies digestives, des pathologies cardiaques, même des pathologies plus opératoires, dans le sens de, voilà, une personne s'est faite opérer de ceci, même pour un truc physique, comment est-ce que son alimentation doit être régulée par la suite, tu vois. Donc voilà, c'est tous ces petits bagages-là en plus qui peuvent apporter quelque chose. Maintenant, encore une fois, moi, si je n'avais eu que ma formation de diététicien, que mes études de diététicien, je n'en serais pas là où je suis maintenant. C'est parce que aussi, j'ai appris à côté des choses plus spécifiques avec la musculation que j'en suis arrivé aux conclusions que j'ai actuellement, quoi. Tu vois, l'avis que j'ai sur la nutrition, quoi.
T'as des références particulières de, je sais pas, c'était des bouquins, des personnes, qu'est-ce que t'as appris de plus en dehors des études? Enfin, où c'est que t'as trouvé tes ressources en dehors de tes études?
Pour les ressources, c'est vrai que si je devais vraiment citer des livres, maintenant c'est des livres parmi d'autres, hein, mais si je devais vraiment citer ceux que je conseillerais à quelqu'un s'il n'y connaissait peut-être encore rien, qu'il voulait apprendre, ben, ce serait les livres de Julien Vénesson, que j'ai trouvé vraiment très bien fait. Donc La nutrition de la force, Paléonutrition aussi, qui est même encore un petit peu plus complet. Sur les livres de diététique,
Je rappelle juste, parce que je sais pas si tu l'avais vu passer, mais je rappelle juste que j'ai eu Julien Vénesson sur le podcast. Et que je recommande tout le monde d'aller écouter et qu'on a, on a parlé de ça. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je pense que la très grande majorité des auditeurs, l'ont écouté parce que c'est quand même un must, cet épisode.
C'est ça.
Mais ceux qui découvrent en cours de route, attendez, il arrive. Le numéro. 48, numéro 48, Julien Vénesson. Voilà.
Ah, donc, c'est quelqu'un d'intéressant. Donc il y a eu Julien du coup. Plus récemment, un livre qui apporte quand même une vision encore un peu différente, qui apporte pas mal de petites pistes sympas et intéressantes, c'est le livre de Williamson.
Ouais, je ne saurais plus donner son titre.
Ben voilà, comme quoi. Donc voilà, si c'était des livres qui, on va dire, regroupent les idées, ce serait dans ces livres-là. Ouais, c'est un truc de la sèche, les secrets de la sèche, je crois, c'est ça. C'est ça. Donc voilà pour les livres Je dis pas que c'est mes sources, c'est ça qui m'a tout appris, mais c'est des livres qui reprennent de façon générale pas mal de principes intéressants sur l'alimentation.
Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu as, je sais pas, tu m'as parlé tout à l'heure du fait d'avoir d'avoir eu des connaissances pour de nutrition pour ceux qui avaient des pathologies, par exemple, ou ceux qui après une opération ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as un exemple qui vient à tête de quelque chose qui t'a marqué, d'un aliment qu'il faut proscrire ou au contraire qu'il faut rajouter en plus grande quantité après une telle opération pendant tes stages?
Un aliment, un truc qui peut être, qui peut être intéressant entre guillemets à savoir. C'est par exemple le pamplemousse, qui a pas mal d'interactions négatives avec pas mal de médicaments. Donc voilà, le pamplemousse, prend des médicaments, mieux vaut toujours éviter de prendre du pamplemousse à côté si on a un doute, quoi. Un autre aliment qui se démarque vraiment, par exemple, par rapport aux pathologies plus digestives, maintenant c'est quelque chose qui peut aussi sembler tout à fait logique, tous les aliments qui vont être irritants, que ce soit les épices, que ce soit, par exemple, quelque chose de gazeux, quelque chose de trop froid ou de trop chaud, seront évités, tu vois. Tous les aliments qui pourraient être irritants au niveau digestif, pour toutes les pathologies digestives, doivent être évités. Mmh. Donc voilà, c'est des choses relativement simples. Non, on pourrait essayer de trouver des trucs plus complexes, mais je pense pas que ça parlerait nécessairement. Mais l'idée du pamplemousse, je trouve ça amusant. Vu
ouais, c'est
on n'y pense pas, tu vois. Tu dis, c'est un agrume comme les autres, mais... Moi, je me souviens plus le nom de l'enzyme ou quoi qui provoque ça, mais il y a un enzyme en particulier dedans qui du coup va interférer avec pas mal de médicaments.
Ok, ouais, je l'ai déjà entendu ce truc. Je serais incapable d'expliquer pourquoi non. Enfin, c'est compliqué.
C'est un enzyme en particulier. Il faudrait que je vérifie. C'est vrai que c'est quelque chose. Du coup, je me suis pas penché plus que ça là-dessus, vu que c'est pas spécialement dans mes domaines d'activité actuellement. Mais
voilà. Alors, la bonne diète de quelqu'un qui veut prendre à la fois soin de sa santé et en même temps être dans un objectif de progression, soit de perf, soit physique, en gros, le go muscu lambda, comme on pourrait vulgairement l'appeler, qu'est-ce que tu recommandes, sans faire de plan précis, mais à quoi doit ressembler une assiette, c'est quoi les grandes lignes que tu recommandes pour ça?
Ce que je recommanderais, pour moi, c'est vraiment la base. C'est du coup l'apport en protéines, l'apport en glucides, l'apport en lipides, et ensuite une source entre guillemets en plus de vitamines et minéraux comme les légumes ou comme le fruit. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de super basique. Mais pour moi, la majorité des gens, quand je regarde une alimentation, quand il n'y a pas de programme alimentaire, ça ne tombe pas nécessairement vers là. Donc pour ma part, il faut déjà ces différentes sources là, et ensuite arriver à ce que cet apport-là en protéines, glucides, lipides plus fruits ou légumes soit réparti sur la journée de façon intelligente. Donc en gros, l'idée, c'est que à chaque moment de la journée, faut pas manger tout le temps, c'est pas ça que je veux dire, mais à chaque moment de la journée, le corps doit avoir accès à des protéines, à des glucides, à des lipides pour fonctionner justement correctement. Donc en gros, répartir ses apports sur la journée, avoir accès aux différents macronutriments et micronutriments.
Toi qui vois pas mal d'élèves sur ça, parce que tu les prends à la fois sur... T'as un package spécial programmation d'entraînement et puis nutrition aussi, tu fais les
c'est
deux
ça, ouais.
En même temps,
c'est
ouais.
Ça. Donc t'as je pas fais les deux ou à la fois, ça dépend un petit peu des gens, quoi. Mais généralement c'est vrai que c'est les deux.
Et c'est quoi le niveau alors de ces le niveau de connaissance, est-ce que toi souvent tu te dis putain c'est incroyable quand même, on en est là, plus personne sait bien manger, ou alors au contraire tu remarques que les gens sont plutôt éveillés sur la bonne alimentation, de plus en plus, ou quel est ton avis, même si c'est biaisé, parce que t'as forcément des gens qui sont déjà dans le milieu de la muscu et c'est probablement ça. Déjà éduqués. Mais...
Ici, de par les suivis que j'ai, c'est toujours des gens qui, du coup, me connaissent de par le contenu que je propose. Mmh. Donc, ils ont déjà un avis sur l'alimentation, sur la musculation. Donc, généralement, c'est des gens qui s'y connaissent déjà un petit peu. Donc ils n'ont pas des connaissances monstrueuses nécessairement, je parle bien en moyenne, sur le sujet, vu que ils font appel à moi, ils ont besoin d'aide. Maintenant, ils ont déjà des connaissances, on va dire, basiques. Donc c'est mieux que monsieur tout le monde. Par contre, quand par exemple j'étais en stage à l'hôpital, des choses comme ça, là j'avais affaire à des gens qui n'étaient pas du tout sensibilisés à ce sujet-là, donc au sujet de l'alimentation. Et là, effectivement, enfin ça part dans des délires, mais moi je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Du style, j'avais pas mal de consultations avec des femmes qui venaient pour le diabète gestationnel. Donc en gros, le diabète que les femmes peuvent développer durant leur grossesse. Quand on faisait un petit peu le tour de leur alimentation, je me dis, c'est même étonnant qu'elles n'avaient pas déjà le diabète avant, quoi. Parce que c'est du style, ça se bouffe des tartes à longueur de journée, ça boit du coca. C'est de l'alimentation fast-food à longueur de journée, quoi. Je dis pas que c'est une généralité non plus, Mais il y a quand même beaucoup de personnes, et je pense plus que ce qu'on ne pourrait croire, qui ont une alimentation très très mauvaise. Et c'est ça aussi qui me fait dire que le corps, franchement, c'est une machine de fou, quoi. Parce que pour supporter toutes les merdes qu'on lui impose comme ça, pour certaines personnes au quotidien, ça fonctionne quand même plutôt pas mal, quoi. Se choper un cancer à 50 ans alors que ça fait 40 ans qu'on bouffe n'importe quoi, il a bien tenu le coup, quoi.
Il a contrecarré pendant un moment, quoi.
Des fois, je trouve même ça impressionnant à quel point le corps il fonctionne bien, quoi. Donc ouais, il y a vraiment les gens, moi, qui me contactent, qui sont quand même déjà en grosse partie relativement sensibilisés au sujet, donc qui ne sont pas parfaits mais qui ont quand même des connaissances correctes. Et à côté de ça, c'est vrai que parfois j'ai des gens qui s'y connaissent un petit peu moins, ou alors quand c'est en dehors de la musculation, là, on tombe sur des choses parfois surprenantes aussi, quoi.
Où c'est que tu penses que le problème de d'éducation sur la nutrition, il vient d'où, tu penses? Parce que là, on est vraiment dans le milieu de la musculation, donc on est sur des gens qui s'intéressent et qui ont déjà fait cette démarche. Mais si on essaie de s'exclure, de s'écarter un petit peu de ce segment de la population, pour être davantage grand public, effectivement, on est tous plus ou moins d'accord pour dire que toute la malbouffe, elle pullule un peu partout. Ça dépend des pays, évidemment, mais c'est là, on bouffe de la merde, comme tu dis. C'est impressionnant de voir que le corps tient à ce point avant de déclarer des maladies. Il est où le problème là-dedans? Il est où? C'est quoi? C'est les médias? C'est la transmission? C'est les livres? C'est pourquoi les gens ne sont pas, pour toi, plus éveillés sur ce qu'il faut mettre dans son corps, sachant que ça devrait être presque le cours numéro un dans la vie, avant de parler de maths, avant de parler de quoi que ce soit. C'est qu'est-ce que je fais rentrer pour déjà ne serait-ce que être vivant sans maladie?
Je pense que de base, en tout cas actuellement dans notre société là maintenant, c'est clairement les médias et le fait que les gens veulent quelque chose facilement accessible, quoi, tu vois. Les gens, ben voilà, si tu prends un ménage classique, les deux personnes travaillent, n'ont pas nécessairement beaucoup de temps, en tout cas ne veulent pas passer beaucoup de temps à cuisiner, à préparer à manger, à se renseigner sur le sujet. Du coup, ben voilà, on achète au plus facile. On va chercher au McDo, on va commander une pizza. On consomme aussi des aliments plaisir, tu vois, vu que l'alimentation, pour beaucoup de personnes, c'est aussi une façon de se réconforter un petit peu. On préfère consommer quelque chose qui va, entre guillemets, nous faire vraiment du bien. Un verre de coca, pour la majorité des gens, ça fait plus de bien qu'un verre d'eau, quoi, tu vois, mentalement, je parle bien. Je pense que c'est ça qui a fait que les gens se dirigent de plus en plus vers une alimentation qui n'est pas du tout optimisé, quoi. Maintenant, comme j'ai dit, c'est les médias qui aussi mettent en avant tout ça. On voit des pubs, t'es le soir, tu regardes la TV, par exemple, tu vois des pubs pour les glaces passer tout le temps, tu vois des pubs pour les chips. Automatiquement, les gens qui réfléchissent pas plus loin que ça, j'aimerais bien manger ma petite glace devant la TV. Et automatiquement, les gens, les adultes qui consomment comme ça, ça se transfère sur les enfants. S'ils n'ont pas pris le temps de préparer leur repas du soir pour la famille, automatiquement, les enfants, ils mangent la pizza avec. Donc c'est un petit peu une spirale infernale, quoi, tu vois. Et à côté de ça, au niveau de l'apprentissage par rapport à l'alimentation qu'on pourrait avoir à l'école, je pense qu'il est totalement inexistant. Non seulement les profs, ils mangent comme les autres personnes, eux aussi, ils mangent leur pizza et tout ça. Du coup, comment veux-tu qu'ils sensibilisent les enfants à avoir une alimentation correcte? Il y a toujours des exceptions, là je fais une grosse généralité, c'est pas la réalité pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais je sais pas, on a tous peut-être le souvenir d'un petit cours qu'on a eu sur l'alimentation quand on était petit, avec style la pyramide alimentaire où tu devais mettre la pomme je ne sais où, l'eau je ne sais où. Mais c'est des trucs qui sont flous et qui n'ont parlé à personne. On a juste ce souvenir de ça, mais on n'en a tiré aucune information pertinente, quoi.
Et des diététiciens diplômés qui seraient, parce qu'effectivement, si c'est des profs qui ne connaissent pas trop l'alimentation, ils vont pas transmettre les bonnes choses. Mais si on essaie d'intégrer, quand je dis on, c'est le système, le gouvernement, j'en sais rien, le système scolaire, essaierait d'intégrer peut-être, il y a pas besoin d'avoir 200 heures de cours peut-être, mais un diététicien qui ferait en classe de, je sais pas, primaire, collège, des cours de nutrition. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée? Et je sais pas, t'as déjà creusé le sujet, tu t'es déjà demandé pourquoi ça n'était toujours pas le cas?
Une bonne idée, je pense que ça le serait de par le fait que ça pourrait donner une structure et des bases aux gens, parce que c'est quand même réellement ce qu'ils recherchent, et ça je m'en rends bien compte. Les gens au final sont un petit peu perdus, tu vois. Ils n'ont pas les informations, ils savent que c'est mieux de manger une pomme que de manger une pizza, mais ils n'ont pas les informations sur précis sur combien de pommes je mange, qu'est-ce que je dois manger avec, etc. C'est un peu ça l'idée. Donc leur donner une structure et des repères, ça c'est quelque chose qui serait super intéressant. Par contre, les pousser, en tout cas leur faire comprendre que Il faut réellement qu'il fasse ça sur le long terme. Là, je crois que ça doit passer par un processus personnel et que c'est pas l'apprentissage à l'école qui va l'apporter, quoi, tu vois. Ici, nous, on fait de la musculation, on mange bien. Pourquoi? Avant tout, c'est pas, en tout cas, la majorité des gens, je pense, c'est pas pour la santé, c'est pour progresser mieux en musculation, tu vois.
On tombe là-dedans pour ça en premier lieu. Ça, c'est
ça. Voilà, en premier lieu, c'est ça qui va nous pousser à aller vers là. Donc, il faut se rendre compte que je pense que chacun a besoin de son moteur pour avoir le petit déclic, le déclenchement. Ce sera très rare les gens, à moins d'avoir une maladie ou quelque chose comme ça, qui vont passer par l'étape alimentation intéressante uniquement pour la santé. Parce qu'on voit les choses sur le court terme, tu vois, on les voit pas spécialement sur le long terme. Donc, c'est ça qui pose problème.
Et je pense aussi, il y a un truc qui touche au corps dans un sens, à l'image, qui fait que ça peut être un peu plus frileux pour faire passer des idées, ou en tout cas, parce que tu vois, les campagnes de sécurité routière, tu sais, ouais. Par exemple, on te montre un accident, ouais. On te montre ça touche, parce qu'en fait, c'est vraiment l'idée de, ok, tu vois concrètement ce qui peut t'arriver, tu fais peur. Donc, dans un sens, quand tu conduis ta voiture, tu te dis, ah tiens, je me souviens de ça et j'ai pas envie de terminer comme ça, donc je ralentis. Donc, je sais pas à quel point ça marche, mais je crois avoir entendu dire que les campagnes de publicité anti pour la sécurité routière, d'avoir des images choquantes, ça fonctionnait. Et tu te dis, tiens, est-ce que à un moment donné, faire la même chose et puis c'est ce qu'ils font avec le tabac aussi.
Je pense. Regarde
sur les trucs de clope, tu vois bien les maladies. Bon, après, à force d'être soumis aussi à ce genre d'image, tu finis par te désensibiliser. Donc, je sais pas jusqu'à quel point ça fonctionne, mais tu n'as jamais vu de publicité ou de campagne de pub ou d'une affiche sur quelqu'un qui va être énorme, qui va être obèse, admettons, ou qui va être en maladie, je sais pas, qui va avoir quoi que ce soit, et dire voilà, c'est à cause de l'alimentation, c'est à cause à force de bouffer du sucre. Je pense que ça, c'est difficilement possible, parce que il y a un tel truc sur l'image du corps, sur l'acceptation de soi, les body positifs, tout ça, tu vois, t'es gros, t'es en surpoids, mais t'es bien comme ça, etc. Donc il faut te respecter et tout, que en fait tu montes quelqu'un d'obèse sur une affiche pour dire voilà comment vous allez finir. Si vos trucs, c'est genre, si t'imagines,
c'est de la discrimination, quoi. Ouais,
voilà, alors c'est ça. C'est où est la limite entre la discrimination et le...
Mais le souci, c'est que ça vient s'opposer à plein de petits problèmes, parce que si tu fais des campagnes entre guillemets de pub pour la bonne alimentation, des trucs choquants, ça veut dire que tu vas réellement à l'encontre d'autres publicitaires, par exemple McDo, par exemple la marque de glace justement qui passait à la TV. Donc il y a vraiment des contradictions qui vont s'opposer, on va dire, sur le même réseau, tu vois. C'est des choses qui seront pas très logiques. C'est des choses qui vont réellement aller en contradiction. La seule démarche qu'il y a, c'est en France, on voit souvent sous les pubs McDo quoi, ne mangez pas trop sucré, trop salé, ceci, cela, tu vois. Mais ça reste du très léger, c'est juste pour dire, regardez, on l'a fait, tu vois, on a prévenu. Mais non, je pense que des campagnes de pub vraiment agressives, ils vont pas le faire, parce que ça va trop aller à l'opposition d'autres choses qui sont aussi parfois, même quasi toujours, des sources de revenus pour eux aussi, quoi, tu vois. Donc il y a trop d'éléments qui vont à l'encontre l'un de l'autre que pour faire quelque chose de significatif, quoi, tu vois. C'est ça. Même chose, tu prends bêtement le cas du Covid actuellement. J'espère que ta vidéo sera pas censurée, du coup. Actuellement.
Non, je sais pas, non, je pense pas, le sujet est déjà revenu.
Non, et puis, tu prends le cas de ça actuellement, il y a eu des morts et tout ça à cause de ça. Maintenant, combien de morts est-ce qu'il y a eu à cause de la malbouffe, tu vois? Il y en a eu beaucoup plus, on n'en parle pas, c'est pas pour ça que les McDo sont interdits, tu vois. Donc, c'est vraiment qu'il y a des conflits d'intérêts derrière, il y a beaucoup d'argent en jeu, à qui va profiter le fait d'être en bonne santé? Pas grand monde à part la personne en elle-même, tu vois.
Tu sais ce que je te propose, c'est qu'on va faire le boulot maintenant là, dans juste les prochaines minutes. C'est puisque à la télé il y a pas, est-ce qu'on peut faire peur là? Est-ce que toi dans tes études t'as vu des cas ou des maladies qui peuvent se déclarer à force de bouffer de la merde? Enfin, on pense au diabète, mais qu'est-ce que tu dirais là à ceux qui nous écoutent pour faire peur et pour être dans ce système voilà de prudence? Arrêtez de bouffer cette merde parce que voilà ce qui va vous arriver.
On peut faire simple. En fait, ce qu'on peut remarquer au niveau des pathologies, au moment où elles vont se déclarer, que ce soit de façon très générale, les cancers, des diabètes, des choses comme ça, on va voir qu'à partir de l'âge de 50 ans, le nombre de maladies, cancers, toutes formes confondues, etc., va grimper, mais de façon super importante. Quoi, tu vois. Donc, en gros, ce qui se passe, moi, en tout cas, c'est l'âge de mes parents. Tous les gens, on va dire, notre génération, on a entre 20 et 30 ans, c'est l'âge de nos parents, quoi. Et du coup, je pense qu'on a tous été confrontés, que ce soit de par nos parents ou des connaissances à nos parents, des amis ou quoi, des gens qui ont eu un cancer, qui sont peut-être morts, qu'on s'est dit c'est injuste, pourquoi lui il a ça, etc. Mais en fait, quand on creuse un peu plus le sujet, ok, il y a toujours des cas qui sont malheureux, que peut-être la personne n'avait rien fait pour. Mais dans la majorité des cas, c'est quoi? C'est l'accumulation dont je parlais sur toutes les années et que voilà, il y a eu de la malbouffe. Et encore, ces gens-là, ils sont nés dans une époque où il y avait moins de malbouffe que maintenant. Donc nous, ça va être sûrement beaucoup plus tôt pour nous. Mais tous ces gens-là, c'est des années de malbouffe qui sont accumulées et le corps qui a dit merde. Donc si on veut effectivement, pour nos parents, je vais dire, c'est peut-être un peu tard si voilà, il y a déjà eu toutes ces accumulations-là. Mais si on veut que nous, on ne soit pas dans la même situation que tous nos potes, on a 50 ans, lui mon pote d'enfance, il est mort de ça, lui il est sur son lit, il est vraiment à l'agonie, il est sur la faim. Si on veut pas que ça finisse comme ça, il faut faire des démarches et il faut prendre les choses en main, quoi, tu vois. C'est ça l'idée, parce que ça va arriver, et comme j'ai dit, ça va arriver beaucoup plus tôt que pour nos parents, parce que eux n'ont pas toujours été dans cette société là de consommation où tu mangeais tout et n'importe quoi. Il y avait une meilleure alimentation. Avant, les aliments qu'on mangeait étaient quand même moins travaillés, quoi. Je pense que c'est le truc le plus précis. Des signes avant-coureurs.
Ouais, parce que tu sais, surtout les cancers, une fois que c'est, tu le vois pas arriver, puis ça se déclare, et souvent c'est des découvertes fortuites, mais est-ce que, alors pour le cancer c'est difficile, mais est-ce que toi tu vois, ou t'as vu des signes avant-coureurs de attention, voilà comme quoi t'es sur le mauvais chemin parce que tu bouffes trop de saloperies, et voilà ce que tu peux ressentir, et ce sont peut-être les prémices de quelque chose de plus grave derrière.
Je crois qu'à partir du moment où t'as les signes avant-coureurs, c'est qu'il est déjà presque trop tard, tu vois. C'est que quand le corps commence réellement à montrer, on va dire, des symptômes, c'est que le truc, il est bien déclaré et qu'il va y avoir des soucis et que ça va peut-être pas bien suivre derrière. Donc moi, ce que je dirais, c'est dire la première chose, c'est comment est-ce que tu manges maintenant? Est-ce que tu te rends compte? Parce que les gens, quand ils mangent mal, ils le savent quand même, s'ils sont un minimum cultivés, ils s'en rendent compte. Est-ce que tu manges bien maintenant? Est-ce que tu manges pas bien? Si tu sais qu'il y a du travail à faire, fais-le tout de suite, quoi. C'est surtout ça. Sinon, s'il fallait vraiment chercher des paramètres que tu peux mesurer objectivement, simplement faire des prises de sang. Un des trucs les plus parlants, c'est de regarder la glycémie des gens. Si la glycémie a tendance à être relativement élevée, qu'on est entre guillemets en pré-diabète, c'est souvent que tout le reste du corps ne suit pas. Le diabète, c'est vraiment la maladie de la malbouffe, quoi. Je parle là de diabète de type 2, pas de diabète de type 1 où les gens ne produisent pas, on va dire, d'insuline, quoi. Mais c'est ça, pour moi, la glycémie, c'est le gros signe de la malbouffe. À côté de ça, il y a aussi tous les repères, les facteurs comme le cholestérol, etc. Maintenant, ça reste encore quand même des choses plus difficiles à analyser de façon réelle et où il y a un peu moins de recul là-dessus, je trouve, quoi. Donc, pour moi, la glycémie, c'est le truc à
surveiller,
à vérifier aussi. Maintenant, il y a des gens qui, avec une très mauvaise alimentation, vont avoir un corps qui va supporter ça pendant des années. Et puis, paf, ça va venir du jour au lendemain, limite sans signe avant-coureur. Et c'est généralement le cas, quoi, tu vois. Combien de personnes, tu dises, écoute, lui, il est en pleine santé, et là, on vient d'apprendre qu'il avait ça, tu vois. C'est la majorité des gens, quand ils ont quelque chose, une pathologie, ça arrive comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas chercher les signes avant-coureurs nécessairement. Il faut juste, là, tout de suite, faire en sorte de manger correctement, quoi.
Tu préconises à faire des bilans sanguins, notamment chez les sportifs, parce que toi, t'as quand même une clientèle qui est davantage orientée muscu sport. Tu recommandes des bilans sanguins, des prises de sang pour voir un petit peu où c'est que ça en est, régulièrement, même naturel, je veux dire, parce que c'est souvent un truc qui revient sur ceux qui utilisent des produits, mais sans produits du tout. Hein, on parle des gens qui font ça vraiment en pur amateurisme, sans produits.
Ça, c'est vrai que c'est un truc que je demande pas nécessairement, excepté dans certains cas. Là, je pourrais pas te donner de cas là comme ça tout de suite, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà demandé. Par exemple, des gens qui sont très souvent fatigués, là, c'est des choses qu'on pourrait vérifier. Mais sinon, c'est pas quelque chose que je recommande, tout simplement parce que là non plus, on n'est pas face à des données qui peuvent être interprétées de façon claire et objective totalement non plus. Il peut y avoir plein de facteurs qui influencent ça. C'est pour ça que je préfère vraiment passer par le côté pratique. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comment est-ce que tu manges pour arriver à apporter quelque chose de mieux, quoi. Je préfère qu'on parle vraiment sur des notions qu'on maîtrise, tu vois, qui sont mesurables, qu'on voit par nous-mêmes, qui sont palpables, quoi, tu vois.
Ok. Bon, sur nutrition, je pense que c'est bon. S'il y a d'autres choses qui me viennent, mais je veux juste aborder une dernière partie. Là. C'est plus le côté santé. Alors, on a parlé de santé tout le long. Hein, c'est quand même un fil conducteur. Hein, sur, il y a progression et santé. Mais si on reste sur santé blessure, est-ce que toi, t'as eu des blessures dans ton activité? Comment tu en es sorti? Parce que je sais que t'avais fait une vidéo avec un ostéo. J'avais trouvé ça cool. En plus, c'est une vidéo qui a le mieux marché. Tu vois, j'ai regardé il y a pas longtemps. Elle est dans le top de tes meilleures vidéos en ce moment. J'ai regardé ça.
C'est ça.
Il y a quelques jours là. Et quelle est ton approche d'abord des blessures et puis ensuite je te demanderai sur les thérapies que tu recommandes ou en tout cas que tu expérimentes.
Du coup pour les blessures, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui a quand même fort guidé on va dire ma pratique parce que des blessures j'en ai eu c'est un petit peu ce qui m'a fait comprendre que on a beau vouloir essayer d'aller le plus vite possible, si c'est quelque chose qui n'est pas transférable sur le long terme, ça va pas aller. Dans l'idée qu'il vaut mieux avoir une progression un petit peu plus lente et pas de blessure, que d'avoir une progression extrêmement rapide, puis tac, te choper une blessure, pour ensuite essayer de reprogresser par la suite. Parce que déjà, non seulement les blessures, quasi aussi petites qu'elles soient, elles vont toujours laisser des traces, tu vois. Je me suis rendu compte que la majorité des blessures que j'ai eues, même si j'ai plus réellement, on va dire, de vrais symptômes, même si ça ne me limite plus, il y a quand même parfois des petits rappels qui reviennent. Tiens, c'est bizarre, je m'étais blessé là il y a 5 ans, je sens encore qu'il se passe un petit truc, tu vois, c'est pas un truc qui me gêne, mais je sens qu'il y a toujours quelque chose, tu vois. Donc ouais, cette notion de blessure-là, c'est quelque chose qui était fort important pour moi. Je suis passé par différentes blessures, que ce soit au niveau du tendon bicipital, que ce soit au niveau du supraépineux, au niveau des vertèbres lombaires, là j'ai eu une protrusion, ou encore au niveau du tendon rotulien, tu vois, ça c'est mes principales blessures que j'ai eues. À chaque fois j'étais face à la blessure et c'est quelque chose qui m'a réellement handicapé dans ma pratique. Soit je pouvais plus du tout m'entraîner, soit ça me limitait fortement sur les exercices que je pouvais faire, donc j'ai très rapidement essayé de trouver des solutions pour les traiter et pour que ça n'arrive plus, tu vois. Au niveau du traitement, évidemment, je me suis dirigé d'abord vers les kinés, parce que quand tu commences, t'es un petit peu perdu, tu penses pas que tu peux avoir, on va dire, ton mot à dire sur le sujet, tu penses pas que tu peux soigner ça par toi-même. Malheureusement, les kinés m'ont pas toujours énormément aidé, pas de chance pour moi, donc j'ai dû quand même chercher pas mal les solutions par moi-même, quoi. Et c'est de ça que, par exemple, j'ai fait plusieurs vidéos sur différentes pathologies, tu vois. Sur le dos, j'en ai fait quelques-unes. C'est vrai que je pourrais en faire limite sur toutes les pathologies que j'ai eues, mais dans l'idée, pour revenir vraiment au truc le plus important, je pense que la chose la plus importante en musculation pour durer, c'est de mettre directement en avant la prévention. Donc plutôt que d'être face à la blessure, devoir la soigner, arriver dès le début à faire en sorte que la blessure n'arrive pas. Et ça passe non seulement par du renforcement spécifique. Ça passe aussi par du travail de la mobilité, parce que clairement, si tu fais du squat, que ta mobilité elle est moyenne, ça va de toute façon mal finir. Ça va passer aussi par une alimentation qui sera quand même relativement adaptée. Par exemple, consommer pas mal de collagène. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande beaucoup, même en prévention. Donc voilà, clairement, les pathologies, elles ont un rôle important dans la progression, parce qu'elles vont la freiner énormément. Et il faut, dès le début, même avant d'être blessé, en tenir compte et faire ce qu'il faut pour ne pas que ça arrive.
L'échauffement aussi, évidemment. Je
pense. Oui, ça c'est clair et net. Ça.
Quand tu dis renforcement spécifique, est-ce que tu peux donner un exemple?
Oui.
Parce que on voit la mobilité, on voit la progression, on voit l'échauffement, mais renforcement spécifique pour un exercice, pour un muscle, je t'amène sur le sujet.
Si on devait, par exemple, parler de renforcement spécifique, dans le cas des pathologies qu'on pourrait avoir au niveau de l'épaule, que ce soit une pathologie du supraépineux, du tendon bicipital, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui va être travail de stabilité de la ceinture scapulaire, de la coiffe des rotateurs, ça va jouer énormément. Ce que je conseillerais, par exemple, c'est faire tout plein des travails de rotation externe de l'humérus pour réussir à stabiliser la coiffe des rotateurs. Travailler aussi de façon, on va dire, dynamique ou même statique, la façon de monter, de descendre ses omoplates, tu vois. Donc le gainage au niveau de la scapula, toutes ces petites choses-là. C'est des domaines un peu plus spécifiques, c'est vrai qu'il faudrait faire des vidéos pour bien illustrer tout ça, mais c'est des choses qui pour moi sont très importantes. Je les ai faites par après de la blessure, après avoir été blessé, c'est ça qui m'a aidé, mais c'est des choses qu'il faudrait faire avant pour justement éviter toutes les répercussions de la blessure, quoi.
Parce que là, quand tu parles de ces blessures au niveau des épaules, au niveau du biceps, là on est plus sur quelque chose de tendineux, de sursollicitaire. Je sais pas si ça se dit, de sursollicitation, de déséquilibre, de toi, de ce que tu as vu.
Plus, ouais. Donc c'est non seulement de la sursollicitation pour certaines choses, mais aussi quasi à chaque fois des petits conflits, des déséquilibres, comme tu dis, tu vois.
Okay.
Donc les conflits étaient là de base dès le début, avec une utilisation classique, on va dire, de la structure, ça n'aurait mené à rien. Mais de par l'utilisation un peu plus importante qu'on en fait que la musculation, le conflit justement vient se marquer. Tout simplement, c'est ça l'idée.
Ok, alors comment t'as fait alors t'as un peu expliqué, t'as fait de la petit à petit t'as découvert, t'as fait de la mobilité, t'as renforcé tout ça. Mais est-ce que t'as vu d'autres personnes, tu t'es renseigné quand tu dis par toi-même parce que les kinés t'ont pas aidé, c'est-à-dire c'était quoi tes ressources? Est-ce que t'as vu quelqu'un? Est-ce que t'as vu plusieurs personnes? T'as lu des bouquins? T'as regardé de je sais pas.
C'est ça. À ce niveau-là, c'était non seulement beaucoup de recherches. Parmi les personnes intéressantes, il y a Christophe Cario, par exemple. À mon avis, tu connais aussi.
Oui, et puis il est déjà passé ici aussi.
En plus, tu vois, j'allais te le dire, je croyais qu'il est passé.
Donc, je commence à avoir eu du monde maintenant. Donc.
Ah, tu vas avoir eu tout le monde, il n'y aura plus personne après.
Oh, il y a toujours des gens intéressants.
Là, il faut. Christophe Cario qui a vraiment sa façon d'apporter les choses. Il a un avis très intéressant sur le sujet. À côté de ça, je pourrais pas te citer des personnes en particulier. C'est vraiment un petit peu le fait d'avoir fait le tour de toutes les vidéos, de tous les articles sur le sujet, qu'à chaque fois, je retrouvais des similitudes. Je me disais, ça me parle. Et à force d'avoir testé, j'en ai ressorti des, entre guillemets, des méthodologies, quoi. Un livre aussi qui était intéressant, c'est, Becoming a Supple Leopard de Kelly Starrett, je crois. Qui apporte pas mal d'informations. Bon, il y a des choses que je suis pas tout à fait de son avis, mais ça apporte des informations très intéressantes par rapport aux pathologies aussi, des pistes de réflexion en tout cas. Et quelqu'un qui voudrait se renseigner, franchement, ce livre-là, ça peut être quelque chose de très costaud.
Je le laisserai en description, mais je l'ai pas lu, mais ouais. C'est vrai qu'il est assez connu dans le milieu.
Ah, il est costaud, et puis même non seulement pour les pathologies, comme j'ai dit, mais pour le travail de la mobilité, pour la progression en général, c'est intéressant, quoi.
Traduit en plus en français parce que c'est un livre anglais.
Il est traduit en français, ouais.
Ouais, par je crois les éditions Fortrainer en plus.
Fortrainer, ouais, tout
me
à
semble,
fait.
À qui je passe le coucou de Laurent. Laurent qui était venu aussi sur le podcast pour parler de la partie. Voilà. Donc j'ai pas donné les noms des épisodes, hein. Souvent, c'est vrai que j'essaie de le donner. Christophe Cario 71, tu vois, on en a parlé rapidement là, mais Christophe Cario qui est un des épisodes pareil qui est le plus apprécié. J'ai des retours incroyables sur cet épisode c'est absolument excellent. Et sur le corps sans douleur, c'est quand même une référence.
Non, c'est
une référence pour beaucoup.
Son livre de base, c'est qu'il est vraiment bien.
Et c'est clair. Il en a fait plein d'autres, hein, mais c'est vrai que celui-là.
Ah oui, il en a un tonne.
Des blessures. Alors les blessures, ok. Est-ce que tu consultes kiné? C'est fini, ça y est. Maintenant, t'es vacciné, comme tu veux plus les voir.
Non, du tout. J'ai pas du tout de mauvais avis contre les kinés. C'est juste que je me suis rendu compte que beaucoup de kinés n'ont pas une approche, comment dire, intéressant vis-à-vis des personnes qui vont faire un sport comme la musculation, tu vois. Je pense, en tout cas, en Belgique, je sais pas comment c'est en France, comment c'est au Canada, ils sont fortement formés non seulement pour les pathologies du quotidien, ça c'est sûr et certain, mais aussi par rapport au sport, plus pour les pathologies liées au sport d'endurance, tu vois. Quand tu rentres dans le cadre des sports de force, ils sont perdus. Il va pas y avoir beaucoup de kinés, en tout cas, moi, c'est un retour que j'ai vis-à-vis de mes élèves, qui vont penser qu'il y a un problème au niveau, et c'est le truc de base pourtant, au niveau du tendon bicipital chez un gars qui a mal à l'épaule, tu vois. Quand c'est quelque chose lié à la musculation, c'est quasi sûr que c'est ça, t'as une chance sur deux, c'est soit ça, soit c'est le supraépineux, enfin ça va se tourner autour de ça. Or, les kinés, ils vont pas penser à ça. Donc je pense que si on veut avoir un kiné qui soit réellement rentable pour la musculation, il faut que non seulement le gars pratique, et qui sont intéressés par lui-même, par la suite, à côté des études, aux pathologies liées à la muscu. Parce que c'est des pathologies vraiment à part, tu vois. Et enfin, c'est quelque chose qui manque ici. Par rapport à mon ostéopathe avec qui, du coup, j'ai fait la vidéo, c'est un gars qui fait du crossfit, tu vois. C'est un gars qui, justement, est plus sensibilisé par rapport à tout ça.
Ok, bon, attends, on va y revenir, tu vois. Et en parlant de kiné, justement, il y en a un auquel je pense. Et, alors, pas Major Mouvement, évidemment, parce que je le mentionne presque à chaque fois, lui.
Ah ouais.
Mais c'est un que j'ai découvert il y a pas si longtemps, là, il y a quelques mois, sur Instagram, c'est M ton kiné, H-E-M ton kiné. C'est quelqu'un qui fait de super, il fait des vidéos YouTube aussi. C'est le Major Mouvement du sportif, entre guillemets. Je veux pas le catégoriser, je veux pas dire qu'il fait la même chose parce qu'il fait pas du tout la même chose. Hein. Mais dans le sens où c'est beaucoup plus orienté, tu vois, kiné, ostéopathe du sport, passionné par la santé, le sport et le crossfit. Il fait du crossfit, il fait du sport, c'est super intéressant. Et puis, je l'ai entendu récemment sur un podcast, d'un collègue objectif performance. Et tu vois, pour le coup, lui, il représente ce qu'on aimerait avoir beaucoup plus dans le milieu du sport, c'est-à-dire un kiné qui sait de quoi on parle quand on parle de sportif et de sport de force, force, muscu, crossfit, tout ça. C'est super bien ce qu'il fait.
Mais ça, c'est top.
J'encourage ceux qui connaissent pas à aller regarder un peu son Instagram. Je sais pas si tu le connais, aime ton kiné.
Je connais pas du tout. En tout cas, enfin, il faudrait peut-être que je vois son truc, mais là, comme ça, de nom, ça me dit rien. Maintenant,
mal, le. Il fait du bodybuilding problème... aussi, tu vois, pour expliquer l'anatomie.
Ok, ça, c'est dessins, top. Il... Ça, c'est génial. Mm. Ça, c'est vraiment top. Ce que je voulais dire, le problème par rapport aux kinés qui, du coup, ne sont pas du tout spécialisés, on va dire, sur la musculation, et se transfèrent à tous les autres boulots autour de ça. Le problème avec les diététiciens, il est exactement le même. Un mec qui fait de la muscu, qui va chez un diététicien, t'as une chance sur deux, 9 chances sur 10 plutôt, que le programme que tu reçois soit un truc de merde, simplement parce que le gars, il s'y connaît pas du tout en muscu, quoi. Donc non, c'est pas juste pour les kinés, c'est ça qu'on soit bien d'accord, c'est par rapport à tous les domaines qui vont être liés à ça, quoi.
Bien sûr. Et l'ostéo avec qui t'as fait la vidéo, enfin, il te suit, tu le suis toujours, parce que j'ai vu qu'il a arrêté de faire des vidéos, depuis un an, là, c'est dommage parce que, il voulait peut-être lancer le truc et puis il a dû s'arrêter.
Bah, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu, depuis le confinement, je pense. Ouais. Enfin, on s'en avait fait la vidéo juste après le premier confinement, mais depuis tout ce qui est Covid et tout ça, on ne s'est plus vu. Sinon, ouais, non, il a son boulot. Enfin, son boulot qui, je pense, tourne très bien. Et je crois que voilà, il a peut-être fait un petit peu moins de vidéos, tout simplement parce qu'il n'avait peut-être pas le temps pour ça. Ouais. Je ne saurais pas dire.
Et donc c'était cool parce que c'était la première fois, c'est pour ça que moi ça m'a parlé pas mal, c'est la première fois qu'on voyait une consultation quasiment complète, un bilan plus un traitement et des explications, donc ostéo, bon, qui est mon métier, donc c'est forcément c'est ça m'intrigue, et sur quelqu'un qui fait de la musculation, qui en plus est assez populaire sur les réseaux et dans le milieu, donc qui est toi, Kylian, et puis quand j'ai vu le truc, je me suis dit, c'est un mashup qui me, c'est une collab qui me parle... moi, c'est des choses qui me plaisent et que, d'un point de vue personnel, ça me plairait de faire ça aussi. Après, je suis pas en France, donc je peux pas aller à la rencontre de personnes forcément populaires. Et puis, c'est vrai qu'il y a le temps, il y a l'implication. Je veux dire, c'est pas juste, tiens, j'aimerais montrer des consultes sur des gens qui sont populaires. Major Mouvement le fait un petit peu aussi. Mais ouais, tu vois qu'il le fait pas tout le temps parce que ça prend du temps. J'ai trouvé ça super cool. Et puis, on voyait un petit peu comment ça se passait le corps de quelqu'un qui fait la muscu, et puis qu'est-ce qu'on retrouve, il expliquait, tiens, il y a de la rotation, ça peut expliquer ça, ceci, cela. Et toi, c'est un truc l'ostéo est une thérapie que tu consommes depuis longtemps, et qu'est-ce que ça t'a apporté, est-ce que t'as eu des déceptions, au contraire, des moments incroyables, ton retour d'expérience?
Ben, en fait, moi, ce qui m'a toujours surpris avec l'ostéopathie, c'est le fait qu'on puisse avoir des résultats, en tout cas, en termes de sensations, quasi immédiates, tu vois. Du style, le truc le plus parlant, t'es bloqué du dos, tu sais vraiment plus bouger, t'es au point de pleurer tellement que ça te fait mal, tu vas chez lui, quelques manipulations, quelques relâchements, et hop, t'as plus rien, mais
ça va de suite,
ta sensation de douleur, elle est passée de 100% à 5%, quoi, tu vois. Et c'est la seule, entre guillemets, médecine, que moi, en tout cas, j'ai pratiquée, qui a apporté des résultats aussi immédiats, tu vois. Ça, c'est clair et net. Après, bon, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, mais c'est vraiment ça qui a joué, parce que, bon, régulièrement, avec tout ce qui était squat, soulevé de terre et tout ça, j'en arrivais à me faire des petits blocages, on va dire ça grossièrement, hein, avoir des zones de contrainte, j'étais limité dans mes mouvements, etc. Et j'étais presque obligé de passer par là pour réduire réellement le temps de convalescence, on va dire. Donc ouais, ça fait déjà quelques années que je consulte des ostéos et tout ça. Là, ça fait quand même longtemps que j'en ai plus vu. La dernière fois, c'était lors de la vidéo. Tout simplement parce que j'ai plus de blocage significatif depuis. Je fais plus de squat d'ailleurs. T'es aussi en raison avec ça. Mm-hmm. Mais voilà. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour de nombreuses personnes.
Tu vois d'autres thérapeutes? Ou tu expérimentes d'autres thérapies? Non.
Non, pas du tout. Je m'étais déjà dit, peut-être tester genre un chiropracteur, des choses comme ça. Plus pour un petit peu avoir un avis, tu vois, une comparaison. Même si encore une fois, un ostéopathe n'est pas un autre, un chiropracteur n'en est pas un autre, tu vois. Mais c'était plus par idée de, comment dire, par curiosité, quoi.
C'est quoi la mentalité de, alors tu vas pas parler pour tous les Belges, mais dans la Belgique, en Belgique, généralement, peut-être que t'as un échantillon assez représentatif pour avoir un avis global. Comment on perçoit la santé? Est-ce que les gens vont voir des thérapeutes pour de la prévention? Est-ce qu'ils s'occupent plus de leur corps? Tu vois, si je fais une comparaison, j'ai l'impression qu'ici, au Canada, c'est un peu plus le cas. Évidemment qu'il y a forcément un lien avec les assurances privées, la sécurité sociale, etc. C'est vrai que en France, on est peut-être beaucoup moins dans la prévention parce que comme les soins sont gratuits, par conséquent, il n'y a pas de vraiment motivation profonde à y aller avant que ça se déclare, par exemple. Mais comment ça se passe en Belgique?
Je pense qu'en Belgique, c'est très fortement comme la France. On est moins remboursé par rapport au kiné et tout ça que vous, mais il y a quand même toujours cette notion-là. On va pas aller consulter avant d'avoir les problèmes. Quoi. Une consultation de prévention, on connaît personne qui fasse ça, quoi. Tu vois. C'est le problème, hein, parce que c'est clairement ce qu'il faudrait faire. Mais on consulte que quand on a un problème, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne chez la majorité des gens ici.
Pas vraiment de différence, ok. Est-ce que tu as des conseils santé que tu pourrais donner beaucoup de prévention, mais est-ce qu'il y a des choses concrètes? On en a déjà beaucoup parlé, hein, mais si on reste dans la santé, tu vois, si on oublie un peu le côté musculation, comment on reste en bonne santé, en longévité? Qu'est-ce que tu recommandes, toi?
Finalement, on va encore se rapprocher de quelque chose de basique et tout ça, mais le fait de bouger régulièrement, c'est quand même quelque chose qui joue énormément. Donc, tu comparais une personne qui aurait une même alimentation, d'un côté, une qui a tendance à être très sédentaire, qui va être devant son ordi, devant la TV, qui va être sédentaire, comme je le dis, et une personne qui va peut-être faire une activité physique 2-3 fois par semaine, pas nécessairement une activité physique à une grosse intensité. Ben, la personne avec l'activité physique sera en vachement meilleure santé. Je crois qu'on sous-estime réellement l'importance de ce bête petit conseil-là, parce que ça peut changer du tout au tout. On peut s'en rendre compte facilement, simplement, ben, on se fait un mois où on est totalement sédentaire, suivi d'un mois où on va un petit peu bouger, tu verras qu'au quotidien, ben, ça va tout changer, quoi. Le corps, il fonctionne beaucoup mieux, tout change. Donc ça, c'était pour la première chose. Et puis la deuxième, ben, qui va de surcroît avec ça, l'alimentation. Même chose, si tu as une alimentation très industrielle avec beaucoup de plats préparés et tout ça, l'effet sur le corps, bah, il sera, je vais pas dire dramatique, mais si, ce serait clairement ça, que si tu as une alimentation, même si c'est pas tous les repas qui sont optimisés, si c'est pas tous les repas qui sont corrects, si de temps en temps, en tout cas la majorité du temps, ce serait plus juste, tu as des repas corrects, l'impact sur le corps sera aussi énorme. C'est des efforts qu'il faut tenir, c'est sûr, sur le long terme, mais c'est des efforts qui changent tout. On s'en rend pas nécessairement compte quand on est dedans, quand on est dans le négatif, parce que on se dit, bah, c'est une situation normale. Mais quand le changement est là, tu te dis, ah ben, c'est vrai que par rapport à la situation précédente, ça n'a plus rien à voir, quoi. Donc, l'activité physique et une alimentation, pas besoin qu'elle soit parfaite, mais qu'elle soit meilleure, ça change tout, quoi. C'est vraiment deux petites choses qui peuvent changer énormément.
Les compléments chez quelqu'un qui fait pas nécessairement de musculation, est-ce qu'il y a des choses qui selon toi est vraiment intéressant de prendre, ou alors tout est censé être bon quand même avec juste de l'alimentation solide? Ça, on parle pas de musculation pour l'instant. On y reviendra.
Ouais. Ça, au final, je crois que c'est Gundil qui le disait. Je trouve qu'il a tout à fait raison là-dessus. La personne qui aura le plus d'intérêt à prendre des compléments, c'est la personne qui mange mal, tu vois, parce que justement, ben, il lui manquera beaucoup de choses. C'est ça, il lui manquera beaucoup de choses. Donc, par exemple, une personne qui a une alimentation relativement fast-food, etc., qui a peut-être des apports en protéines un peu trop faibles, qui a peut-être des apports en minéraux surtout un peu trop faibles, et en vitamines, prendre un multivitamine, prendre un petit shaker de whey une fois de temps en temps, ça peut lui apporter, quoi, ça c'est certain. Donc ouais, il y a des compléments qui peuvent être intéressants. Je pense que dans la majorité des compléments vendus chez les bonnes marques, il n'y a rien qui apportera quelque chose de négatif aux gens qui les consommeront. Donc c'est pas un problème, c'est quelque chose qui peut être envisagé même pour une personne sédentaire.
Ok, ouais.
Après, passer par l'alimentation, c'est quand même encore mieux, quoi. Si l'alimentation est optimisée, c'est la priorité. Tout à fait.
Chez le sportif en particulier, tu as mentionné le collagène tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te semblent essentielles pour toi?
Alors, chez le sportif, je refais un petit peu le tour des compléments que je prends. On parle de sportif de force, là, plutôt, ou le sportif en général?
Ben, est-ce qu'il y a une différence?
Il peut y en avoir. Par exemple, chez le sportif de force, effectivement, tout ce qui est collagène et tout ça, ça va jouer énormément. Aussi, je trouve, et ça, c'est vrai que ça va être pour le sportif de force et d'endurance, tout ce qui est vitamines et minéraux, ça vaut la peine. Si l'alimentation est optimisée, c'est une bonne chose, mais les besoins sont quand même relativement importants aussi à ce niveau-là, tu vois. Une personne qui a des apports, des besoins alimentaires relativement élevés, n'aura pas toujours facile à atteindre ses besoins en consommant uniquement des aliments, optimaux. tu vois, où il y a automatiquement des vitamines, des minéraux avec les glucides, etc. Du coup, ça vaut aussi la peine d'avoir les multivitamines, les multiminéraux. Le zinc, par exemple, c'est aussi un complément qui vaut la peine. On se rend bien compte que chez les sportifs, c'est quelque chose qui peut un petit peu manquer avec l'activité physique, et une complémentation en zinc, ça peut jouer. Encore une fois, ça va jouer un peu plus cette fois-ci sur les sportifs d'endurance, mais des gens qui vont avoir une activité physique importante en termes de volume vont voir aussi leur défense immunitaire parfois un petit peu chuter, tu vois. Donc le zinc va encore pas mal contribuer, tout ce qui sera sélénium par exemple, tout ce qui sera vitamine D va aussi jouer. Donc en fonction de l'activité physique, ouais, il y a des compléments qui peuvent valoir la peine. Là, ceux que je viens de te dire maintenant, de façon générale, c'est, je vais dire, les plus importants, quoi.
Toi, tu prends tout ça, ou t'en prends d'autres à titre personnel?
Alors du coup, moi, ce que je prends, bah, j'ai la whey, qui elle est pour faciliter l'apport en protéines, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Ça, c'est mon apport en protéines souvent pour mon repas du matin, pour mon goûter. À côté de ça, bah, je prends de la créatine qui est aussi intéressante, bah, pas mal pour les sports de force, mais qui peut aussi être intéressante pour les sportifs d'endurance. Quelque chose d'autre qui vaut la peine, bah, pour mes entraînements par exemple, je prends souvent du PeptoPro avec un glucide rapide, tu vois, tout simplement pour justement limiter le catabolisme et un petit peu prévenir justement la récupération. Côté de ça, bah, j'ai le multivitamine, dont la vitamine D, tu vois. Vitamine D qui sera plus ou moins intéressante en fonction d'où tu vis. Si tu vis quelque part où il y a énormément de soleil, où tu as une exposition au soleil importante, c'est peut-être moins intéressant d'en prendre, tu vois. Si par contre, bah, t'habites là où il fait moins ensoleillé, bah, que t'es en Belgique, par exemple. En plus, avec l'été qu'on a là, la vitamine D, elle se justifie limite toute l'année, quoi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'intéressant? Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. La glycine est pas mal intéressante aussi en complément avec le collagène. Donc voilà, on a fait le tour des intéressants. Il y a toujours d'autres, mais voilà.
Sachant aussi que, alors ça, c'est pour ça que je t'ai demandé à titre personnel, que c'est en fonction du budget, que c'est en fonction de chacun.
Ah oui, ça c'est clair.
De quoi? Parce que c'est vrai que ça peut représenter aussi une certaine somme chez ceux qui ne. Parce que toi, t'as la chance d'avoir, enfin la chance, tu l'as mérité. C'est pas tombé du ciel évidemment, mais d'avoir le sponsor, un sponsor qui te permet d'avoir des compléments un peu plus, de manière plus facile dans un sens. Donc peut-être essayer de ça dépend, hein, de ceux qui nous écoutent, d'aller taper d'abord dans les choses qui semblent plus essentielles, et puis peut-être après élargir.
Ouais. Ce qu'il faut quand même retenir, et c'est vrai que là on était un petit peu dans le plus spécifique, on était un petit peu plus loin dans la démarche, mais si on a de l'argent à dépenser dans quelque chose, il faut quand même la dépenser avant tout dans l'alimentation. C'est quand même ça qui va faire la base de tout. Mmh. Les compléments alimentaires, c'est juste un très petit pourcentage, pas toujours significatif, de bonus. Donc c'est pas toujours grand chose. L'alimentation, c'est vraiment ce qui fera la différence, que ce soit au niveau du rapport qualité-prix et surtout aussi de l'intérêt, quoi.
Et oui, non, mais c'est ça. Parce que toi, t'es chez Nutrimuscle, hein. Il y avait le,
c'est
alors,
ça,
on l'a pas, forcément, on l'a pas vu sur la caméra, je pense, mais il y avait le.
Non, si tu veux, j'ai des boîtes.
Ouais, vas-y, fais la promo. Est-ce que t'as, quel est le code? C'est Kylian 10.
Ah, il y a pas de code sur Nutrimuscle.
Y a pas de code sur Nutrimuscle, les enfants.
Mais pour l'idée, pour pas que les gens qui ne me connaissent pas pensent que je suis en train d'essayer de mettre en avant des compléments ou quoi. Les compléments alimentaires de chez Nutrimus, c'est des compléments que je consomme quasi depuis le début. Et pourquoi je les ai choisis eux? C'est parce que c'est une des seules marques qui propose non seulement que des compléments qui valent la peine, parce que généralement, bah, les marques, elles vendent quoi? Les compléments qui se vendent bien. Donc, automatiquement, ça a proposé des trucs qui sont pas toujours utiles, mais que dans l'idée des gens, ça vaut la peine, quoi. Et en plus de ça, bah, il y a les compléments, comme je dis, intéressants, mais c'est aussi une des seules marques avec une transparence qui est juste énorme. Parce que tu vas savoir d'où viennent, quels sont les producteurs des compléments, quel est l'eau que tu as pris. Par exemple, pour les oméga 3, bah, tu connais carrément l'oxydation des oméga 3. Donc, pour moi, si on veut se complémenter, étant donné que c'est dans une démarche avant tout de santé, autant directement se diriger vers une marque qui a les mêmes valeurs, les mêmes valeurs que nous. Donc voilà. Au début, Nutrimus ne faisait pas de sponsoring, donc j'ai jamais envisagé ça. Après, ils en ont fait. Donc je me suis dit, bah, s'il y a une marque dans laquelle, pour laquelle je dois mettre en avant les produits, c'est clairement celle-là, quoi.
Et c'est eux qui sont venus vers toi? Comment ça s'est passé? Simple curiosité personnelle, ils sont. Tu les as contactés?
Du coup, alors, avec Nutrimuscle, je les avais déjà contactés quand j'avais fait la vidéo sur le collagène. Je leur avais dit, bah, écoutez les gars, moi je consomme votre marque depuis des années, je prévois de faire une vidéo sur le collagène et mettre en avant votre produit, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils ont directement été très sympas, on a discuté, on a pris un premier contact comme ça. Et par la suite, Avner, justement, qui voulait quitter, lui, était sponsorisé par Prozis.
Exact.
Et voilà, il se rendait bien compte que c'était pas une marque avec les mêmes valeurs, avec les mêmes valeurs que Nutrimuscle. Du coup, lui avait envie de se diriger vers quelque chose de plus en accord avec la santé, on va dire. Et il m'a demandé, toi, qu'est-ce que t'en penses? Quelle marque est-ce que tu me conseilles? Et du coup, moi, je lui ai dit, écoute, moi, je consomme Nutrimus depuis des années. Si je t'en conseille une, c'est celle-là. Par contre, ils font pas spécialement de sponsoring. Lui s'est dirigé vers eux. Et il a négocié ceci, cela. Et il a su se faire sponsoriser par Nutrimuscle, qui ensuite sont venus vers moi pour dire, on serait aussi intéressé par te sponsoriser, toi aussi.
Quels sont les avantages? Enfin, je sais pas si t'es autorisé à en parler ou comment ça se passe, mais si tu n'as pas de code, tu n'as pas directement de revenus liés ou peut-être que si, je me demande comment ça fonctionne.
En fait, ce qui se passe avec Nutribus, c'est qu'ils jouent quand même beaucoup sur, ça va tout à fait avec leur valeur, avec, l'importance qu'ils jugent dans la personne. Donc, en gros, une personne qui va transmettre de bonnes valeurs, qui va mettre en avant leurs produits, même s'ils ne savent pas nécessairement suivre les ventes que font cette personne, ils vont rester avec, tu vois. C'est un peu dans cette idée-là, ça reste une marque, même si elle se,
elle
progresse de plus en plus, elle se déploie de plus en plus, ça reste une marque avec un fond très familial et avec des valeurs qui restent les mêmes depuis le début, tu vois. On est bien d'accord, le but de chaque commerçant, c'est de vendre, c'est de faire de l'argent. Mais contrairement à beaucoup d'autres marques, on va dire, ont su garder leur valeur de base, qui était de proposer des produits de qualité et toujours en accord avec la santé, quoi, tu vois. Et c'est encore une fois pour ça que je suis intéressé à aller avec eux, quoi.
J'aime beaucoup Nutrimuscle quand je vais c'est la marque que je pourrais recommander à n'importe qui se trouve en Europe ou en France. C'est vrai que alors ici ils ont un système de livraison, mais je l'ai pas utilisé parce que la livraison est presque aussi chère que c'est forcément, puisque c'est de l'autre côté de la
table. C'est une question que je me posais juste avant le podcast, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je me suis dit, est-ce que Nutrimuscle livre de l'autre côté de la mer?
Je leur avais envoyé un mail, il m'avait expliqué que oui, il m'avait donné les tarifs, il m'avait expliqué en fonction de c'est poids dépendant, hein, c'est plus tu prends de poids, plus ça va être cher. Mais il y a pas de boutique ici, il y a pas de, évidemment c'est belge, hein. Enfin, je veux dire, les usines sont en Belgique, c'est ça?
Ils ont, je sais pas si c'est les usines ou les dépôts en Belgique, sinon ils ont leur siège social, je crois que c'est à Paris, et leur boss, on va dire, hein, il vit en Suisse.
D'accord.
Donc c'est vrai que c'est vraiment, ça tourne autour de tous les pays francophones, on va dire, ici tout près, quoi.
Alors ici, personne connaît, parce que quand je demande, quand ça m'arrive de discuter avec des gens qui sont ici à Nutrimus, non, c'est pas du tout connu. C'est francophone, hein, je veux dire, au Québec, les gens parlent français.
Ouais.
Et donc par conséquent, il y a quand même certaines éducations qui peuvent se transmettre, tu vois. Les gens, ils peuvent connaître certains influenceurs, en gros, français. Mais Nutrimus, la marque, on connaît très peu ici. Et c'est dommage parce que ce qui fait que quand je vais en France, j'essaie de faire le stock et de revenir ici avec ce qu'il faut. D'ailleurs, si quelqu'un de chez Nutrimus écoute ce podcast, s'ils veulent sponsoriser le podcast d'une certaine manière, pourquoi pas. Je suis pas contre. Parce que moi aussi, j'apprécie beaucoup. Ouais, et puis je pense que on est dans le même système de valeurs aussi. Peut-être que je leur enverrai un mail, ces quatre, on sait pas.
Ouais, n'hésite pas, ils sont très ouverts, ils sont réactifs, donc si tu veux discuter avec.
Moi, ça serait avec grand plaisir, si ça les intéresse, pourquoi pas. Sinon, je pense qu'on a fait un bon tour, hein. On va conclure rapidement. Je vais te poser quelques petites questions très rapides de fin, là, que j'ai toujours. J'ai quasiment tout fait déjà. Quand même, alors je veux passer juste quelques secondes là sur les projets futurs, parce que on en a parlé un tout petit peu avant qu'on démarre, et puis ce qui m'a attiré, évidemment ça m'attire une certaine curiosité, t'as des choses qui vont venir un peu fin 2021-2022, tu m'as parlé d'une formation.
Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. C'est vrai que là j'ai été beaucoup moins présent sur les réseaux, en partie avec toutes ces choses là comme je t'ai dit, je vais sortir une formation qui normalement est pour très bientôt, elle est en cours de finalisation, donc qui devrait sortir, si on est dans les timings, pour le mois de septembre.
Formation
qui sera sur la musculation. En gros, le but de la formation, ce sera de permettre aux gens de progresser dans les meilleures conditions. Donc en gros, voilà, quelqu'un qui est un petit peu perdu en musculation, qui sait pas quoi faire, qui se dit, j'ai entendu ça par-ci, j'ai entendu ça par-là, qu'est-ce que je dois faire pour progresser correctement? Le but de la formation, c'est de lui apporter toutes les clés par A plus B sur comment progresser. Donc en gros, tu dois faire ça, tu le fais comme ça, et tu progresseras, ton temps il sera rentabilisé. Voilà, ça ce sera le but de la formation, et c'est le premier projet dont je t'ai parlé, ça va tourner autour de trois grands thèmes. Donc, il y aura toute la partie entraînement, tout ce qui va toucher à l'entraînement, comment faire son programme, comment choisir les exercices, pourquoi choisir tel exercice plutôt qu'un autre, comment faire justement aussi ces cycles de progression, encore plein d'autres sujets aussi, tout ce qui va toucher à l'alimentation. Donc la même chose, comment faire son alimentation, pourquoi choisir tels aliments, comment répartir ses repas sur la journée. Et le troisième pilier, bah, ce sera tout ce qui sera un peu plus spécifique, que ce soit par rapport à la prévention des blessures, dont on a parlé juste avant, et le rattrapage des points faibles. Donc voilà, ce sera une formation où on aura accès à tout ce contenu-là et que régulièrement, bah, je renouvellerai en apportant du contenu en plus, etc., quoi.
Pas uniquement pour les coachs, si j'entends bien. C'est vraiment pour tous ceux qui veulent être progresser.
Le but, c'est vraiment d'apporter aux gens les clés pour progresser. Donc, si t'es une personne qui veut progresser en musculation, bah, tu bénéficieras entièrement de tout ça. Mais à côté de ça, si t'es coach, que bah, même chose, t'es un petit peu face au même dilemme que certains gens qui cherchent à progresser et il te manque certaines clés, etc. C'est quelque chose qui pourra aussi apporter énormément. Donc, c'est vrai que j'ai réfléchi, bah, est-ce que les gens qui veulent progresser sont plus ciblés que les coachs? Pas réellement. Les deux en trouveront réellement leur réponse. Quoi.
Et justement, peut-être aussi pour des gens comme moi, qui sont dans des métiers qui sont parallèles à ce que peut faire un coach, mais qui n'ont pas, tu vois, on parlait tout à l'heure des kinés, ou peut-être ça fonctionne avec les ostéos, ça fonctionne avec les diététiciens aussi, qui ne sont pas nécessairement dans ces milieux de sport force, de musculation, qui va permettre de faire des croisements. Et lorsqu'ils vont recevoir des personnes qui sont dans ce milieu-là, de savoir de quoi on parle. Donc,
exactement.
Je sais que j'ai quelques ostéos de la santé qui écoutent, ils seront peut-être intéressés.
C'est ça. Il faut voir ça comme un accès rapide vers l'information juste par rapport à la musculation et la progression. Quoi. Donc, c'est vraiment un cheat code, si tu veux, pour avancer plus vite. Quoi.
Une autre chose, tu me parlais de home gym aussi. Hein. Ça, c'est intéressant parce que...
Ouais.
Bah, vas-y, je te laisse.
Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me prend aussi énormément de temps. Donc là, bah, ceux qui me suivent savent que bah, je me suis très souvent entraîné en home gym. J'ai mon home gym depuis des années. Et là, bah, du coup, j'ai eu l'occasion d'acheter un bâtiment dans lequel bah, je prévois de faire un gros home gym. Là, il est en cours de finalisation, donc tout n'est pas fini, mais j'espère terminer ça bah, du coup aussi pour le mois de septembre. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, vu que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, donc ces deux choses-là, à partir de ce moment-là, bah, je relancerai les vidéos YouTube, je pourrais mettre en avant bah, tout ça, je mettrai aussi en avant le home gym, comment il a été fait, et bon, bah, ce sera le sujet de pas mal de nouvelles vidéos.
Jusqu'à maintenant, tu étais dans ton sous-sol, hein, c'est ça, pour faire les vidéos.
C'est ça, tout à fait. C'est dans une cave, on va dire.
Mmh. Ok, bon, ben, hâte de voir tout ça. De toute façon, les liens de ta chaîne, les liens de tout ce qu'il faut seront en bas. Hein. Tu vas me les rappeler après. Les trois questions de fin qui sont pour moi pas les plus importantes, mais j'essaie de ne pas les louper. Ou en tout cas, au moins deux. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre?
Alors là. Comme ça, je pourrais pas te dire parce que, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, j'ai perdu du temps. Mais comme pour les blessures, par exemple, c'est des choses qui m'ont permis d'ouvrir les yeux sur de nouvelles choses, tu vois. Donc à chaque fois, je pense que toutes mes petites erreurs, toutes mes pertes de temps, c'est des choses qui, par la suite, vu que j'ai réussi à m'adapter comme il fallait à tout ça, m'ont permis d'aller plus loin et d'arriver où j'en suis. Donc si je devais donner un conseil, j'aurais pu faire des raccourcis. Maintenant, je suis content d'être passé par là où je suis passé. Franchement, j'ai pas de regrets par rapport à tout ça. Mais s'il fallait que je donne un conseil général, bah, c'est progresser sur ses charges à l'entraînement. C'est ça l'idée.
Ok. T'as eu un modèle ou un mentor? On a parlé de Rudy. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que t'as voulu ressembler ou qui t'a vraiment aiguillé? Pas nécessairement dans la musculation. Hein, ça peut être aussi dans ton parcours pro ou personnel.
Bah pas spécialement, parce que le truc c'est que moi l'idée des modèles, des mentors ou quoi, c'est quelque chose qui ne me correspond pas tout à fait en fait. J'ai pas envie de me limiter à une seule personne, à une seule source on va dire de savoir. J'aime bien piocher un petit peu partout les choses qui me parlent et ensuite moi d'en faire un mix en fonction de ce que je juge le plus intéressant, tu vois. Donc non, j'ai pas de modèle mentor en particulier. Comme j'ai dit, avec Superphysique, ça a servi d'une super bonne base. Mais c'est aussi une partie uniquement de mon apprentissage. Quoi. Donc ça fait partie, c'est le fait d'avoir pioché un petit peu partout qui a fait ce que je suis maintenant.
Mmh, la mosaïque de.
Voilà, c'est ça.
De sources. Un livre qui t'a marqué, que t'as envie de recommander. On en a eu quelques-uns là que tu nous as donné sur ouais, notamment ouais. L'alimentation, mais et puis la souplesse. Mais autre chose, je sais pas si tu lis des bouquins pratiques ou des romans ou quelque chose qui t'a vraiment marqué.
Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de romans, etc. J'avais lu tous les Harry Potter, alors que enfin tous les Harry Potter, tous ceux qui étaient sortis à ce moment-là, alors que je n'avais que quel âge, que 7-8 ans, je crois. Du coup, j'ai un petit peu regardé là par rapport au truc que je vois là. Bah écoute, franchement, encore une fois, et c'est ça le souci, hein, je saurais pas te donner une idée générale, te dire celui-là j'ai adoré, parce que c'est encore une fois un mix de tous les livres qui sont là. Pour en sortir un maintenant, qui est pas mieux qu'un autre, mais qui est bien aussi, ben, j'ai bien aimé La méthode de la vie 3. Tout simplement parce que ça abordait des aspects morphologiques, anatomiques, etc., qui étaient intéressants. Et au final, ben, La méthode de la vie 2, comme La méthode de la vie 3, elle apporte des pistes de réflexion qui valent la peine, quoi. J'ai pas sorti de ces livres-là un grand courant ou un truc important que je me suis dit ça, il faut absolument que je le suive. Mais encore une fois, ça m'a ouvert l'esprit par rapport à de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses-là ont découlé par la suite à des choses que je fais maintenant, quoi.
Ok, parfait. Bon, ben il y a quand même pas mal de références pour ceux qui veulent aller plus loin et qui n'ont pas les livres, hein, donc je les mettrai en notes dans les notes de l'épisode, hein, comme d'habitude. On est bon. On te retrouve sur YouTube. Je mettrai le lien de ta chaîne YouTube, sur ton Instagram, t'as ton site web si on veut se renseigner un petit peu plus sur ce que tu proposes,
pour même tout ce sur qui est coaching et tout ça,
les ouais. offres. Ouais. D'autres liens, d'autres choses où on peut te retrouver dont tu veux que les gens, tu veux qu'on renvoie les gens.
Bah comme ça pour le moment non, mais il y aura comme on a dit tout à l'heure bientôt la formation, quoi.
Ouais.
Je vais essayer de proposer ça au prix le plus bas possible pour que justement ça puisse toucher un maximum de personnes.
Mmh.
Et voilà. Voilà pour tous les différents canaux où on peut me retrouver, quoi.
Ok. Eh ben, écoute, on est bon. Est-ce que t'as un dernier mot à faire passer, un truc qu'on n'aurait pas dit, que t'as pensé, que tu dis tiens, avant qu'on quitte?
Ah, comme ça, rien en particulier, si ce n'est te remercier du coup pour le podcast. C'était bien agréable. C'était un bon moment.
Bah écoute, merci à toi de t'être prêté au jeu. Tu vois, c'est vrai que j'ai eu du monde sur ce podcast et ça fait un moment que je voulais avoir cette discussion avec toi parce que tu fais partie des personnes qui proposent du contenu et qui sont dans le milieu depuis quand même un sacré bout de temps. Donc je savais que ça allait être un épisode orienté beaucoup plus musculation, ces trucs. Mmh, d'ailleurs, c'est quelque chose que je me rends compte. Je fais des épisodes qui des fois un peu sont variés, tu vois. Récemment, ouais. J'ai des épisodes qui ont pas mal plu, qui sont sur l'effort spécial, okay. Sur enfin des sujets des fois qui varient, mais qui restent toujours dans le thème de la santé, du sport et un peu de la compréhension de soi. Mais la source, c'est vraiment la muscu. Enfin, la source. Ce qui plaît, je le vois sur les statistiques. Ouais, hein, c'est tout ce qui tourne autour de la musculation, du fitness et du fit game aussi. Ça fait parler. Ça. Donc non, c'était un plaisir. Merci Kylian d'être passé sur le podcast. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, d'être toujours avec nous. Laissez une note sur Apple Podcast. Laissez votre commentaire, laissez votre approbation, votre pouce, peu importe. En tout cas, votre petite trace pour faire monter le podcast. Abonnez-vous aussi parce que j'ai des épisodes qui sortent toutes les semaines, comme ceux qui les suivent régulièrement, hein. Et donc si vous voulez pas les louper, les prochains qui vont être intéressants aussi, hein. J'ai même s'il y a du monde qui est passé, je pense qu'il y a encore beaucoup de monde intéressant qui va venir. Donc abonnez-vous au podcast sur les applications, c'est plus simple. Sur YouTube, si vous préférez voir nos gueules, même si je pense pas que voir nos gueules pendant 2 heures soit une plus-value extraordinaire, mais enfin ça chacun juge. Et puis non, je pense que c'est bon. Inscrivez-vous à la newsletter aussi. Je vous laisserai le premier lien qui est en description. Mis à part ça, prenez soin de vous, programmez vos entraînements, structurez vos entraînements parce que ça fonctionne apparemment. Et sinon, je vous dis tous à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Bye bye.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à 2 de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique, je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.